7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 12 juin et c'est l'événement ce matin sur Europe 1. Le trophée de la Coupe du Monde féminine de foot est avec nous, regardez-le. Vous pouvez le suivre en direct et prendre des photos virtuelles peut-être sur Europe 1.fr. C'est une grande journée foot d'ailleurs aujourd'hui sur notre antenne. Les Bleus affrontent ce soir la Norvège, soirée spéciale dès 20h autour de Lionel Rousseau avec notre consultante Sandrine Roux, Europe 1 radio officielle de la Coupe du Monde. L'actualité, c'est aussi le grand oral d'Edouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée avec, après les européennes et les promesses du grand débat, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale. Il doit lancer l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. À 7h20, un Europe 1 va plus loin, exceptionnel, en direct de Guyane sur le dossier explosif de la Montagne d'Or. Vous savez, c'est le projet de mine géante à ciel ouvert, mais est-ce que ce projet est vraiment enterré? Le gouvernement va-t-il tenir face à la pression des intérêts économiques? Enquête à ne pas manquer ce matin à 7h20. 7h45, les 70 ans de Paris Match, 70 années de scoop, de reportage, de photoshop. On en parlera avec le directeur de la rédaction du journal de l'hebdomadaire, que vous connaissez bien, Olivier Royan. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 9h. Merci de nous faire confiance. Bon réveil sur Europe 1.
En ce mercredi 12 juin, bienvenue. Il est 7h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Hélène Zelani est dans la place. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe a pris fin dans la nuit. Un détenu retenait deux surveillants qui ont été libérés sains et saufs. Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1 Mathieu Bock dès le début de ce journal. Rendez-vous à 15h dans l'hémicycle, jour J pour Édouard Philippe qui prononcera son discours de politique générale.
Et à 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera le maire de Nice, Christian Estrosi.
Et puis le bac, ça se rapproche. Première épreuve la semaine prochaine, le 17 juin. Certaines municipalités chouchoutent les lycéens en pleine révision. La prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, de retour au cœur de l'actualité. 3 mois après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé, elle a été le théâtre d'une prise d'otage. Rien à voir avec la radicalisation cette fois. Un détenu qui réclamait son transfert a retenu deux surveillants pendant plusieurs heures. Mathieu Bock, vous êtes à Condé-sur-Sarthe pour Europe 1. Tout a commencé un peu avant 20h.
Oui, au moment du dîner, l'homme, un détenu de 35 ans, Francis Dorfer, distribuait lui-même le repas aux autres prisonniers quand il a profité d'un moment d'inattention des surveillants pour sortir un pic qu'il avait lui-même fabriqué et pour prendre en otage les deux membres de l'administration pénitentiaire, un gardien expérimenté et une jeune stagiaire. Il les a enfermés dans sa propre cellule. Il a ensuite réclamé des médicaments et un transfert vers une autre prison, plus proche de sa famille, dans l'est de la France. Ce prisonnier, qui a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son codétenu en 2003, n'en est pas à son coup d'essai. C'est la 6e fois qu'il prend en otage des surveillants et à chaque fois pour exiger un transfert. Hier soir, la négociation a duré près de 5 heures. Des équipes ERIS spécialisées dans les mutineries ont été appelées en renfort. Plusieurs hélicoptères se sont même posés à proximité de la prison et l'homme a relâché ses deux otages un par un en fin de soirée. Il a ensuite été transféré à bord d'un convoi ultra sécurisé au commissariat d'Alençon où il a été placé en garde à vue.
Mathieu Bock à Condé-sur-Sarthe pour Europe 1.
À Lorient, la traque se poursuit.
3 jours après le drame, un enfant tué, un autre dans un état critique, le chauffard et sa passagère sont toujours en fuite. Hier, la police a diffusé un appel à témoins avec leurs photos et leurs signalements. Hélène Terzian, vous avez des informations sur le profil de ces deux fuyards.
Ils semblent décidés à prendre la fuite ensemble. Lui, jeune homme de 20 ans sans emploi, déjà condamné pour des faits de conduite sans permis. Elle, 21 ans, vendeuse dans une boutique de vêtements. En couple pendant 2 ans, selon des proches de la jeune fille, ils ont vécu une relation tumultueuse et seraient même séparés depuis plusieurs mois. De quoi peut-être expliquer les doutes de cette ancienne camarade de collège de la passagère.
De ce que je connais d'elle, c'est une fille droite et je ne sais même pas ce qu'elle faisait avec un garçon comme ça de base. Bah, une fille comme ça qui irait faire des problèmes et puis des délits comme ça. Quoi. Donc oui, bah, pour moi, elle est juste complice dans l'histoire maintenant. Elle a préféré continuer avec son amour qu'elle aime et non.
Mais fuit-elle de son plein gré? Selon le cercle d'amis proches de la jeune fille, le chauffeur aurait toujours une forme d'emprise sur elle. Des amis décrivent un compagnon possessif. Certains évoquent même des gestes violents. Une relation qui interroge et qui nourrit l'inquiétude des proches. Famille, amis, personne n'arrive à les contacter ni à les géolocaliser sur les réseaux sociaux.
Hélène Tarzian à Lorient pour Europe 1. Il est 7h04.
C'est le grand jour pour Édouard Philippe. Il prononce aujourd'hui son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
Oui, le deuxième après celui de juin 2017. Le Premier ministre doit préciser les orientations données par le président Macron après le grand débat. Qu'attendent les députés de la majorité ? Réponse avec ce reportage de Virginie Riva.
Avec ce discours, qui doit marquer l'acte 2 du quinquennat, les députés attendent surtout un calendrier clair, des priorités. Ils ne connaissent pas encore les tout derniers arbitrages. Pour Jean-Baptiste Djebbari, il faut surtout un volet social important.
Les textes évidemment sur la retraite, sur la dépendance, les textes bioéthiques, c'est important pour la majorité d'avoir un cadre qui soit maintenant clarifié et précis.
Mais la priorité absolue pour la députée Barbara Pompili, ex-Europe Écologie Les Verts, c'est l'écologie.
Évidemment, de mettre la question écologique au premier rang des priorités, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des politiques publiques cohérentes, des annonces, et puis aussi l'accompagnement de tous ceux qui peuvent avoir du mal dans la période.
Beaucoup attendent surtout de scruter le vote des parlementaires. Le Premier ministre engage un vote de confiance à l'Assemblée aujourd'hui et fait rare un vote simple demain au Sénat. Le député Laurent Saint-Martin attend une clarification de chacun dans le contexte de la recomposition politique en cours.
Ça va être aussi intéressant de voir quels vont être les votes pour la confiance et puis ça sera aussi intéressant de voir ce que les sénateurs pensent de ce discours de politique générale.
Une façon de compter les troupes, ajoute ce député.
Virginie Riva, le discours doit commencer à 15h dans l'hémicycle, juste avant Édouard Philippe déjeunera avec Emmanuel Macron pour peaufiner les derniers détails.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zelani. Les Bleus ont vengé la claque subie en Turquie. Victoire hier soir en Andorre, 4-0. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zelani, ça y est, c'est la quille pour l'équipe de France de foot qui disputait hier son dernier match avant les vacances.
Et les champions du monde terminent sur une note positive, ils sont allés battre Andorre hier soir, 4-0, match de qualification pour l'Euro 2020, rencontre à laquelle assistait Cyril de la Morinerie.
La défaite en Turquie est déjà oubliée. Les Bleus ont montré un tout autre visage, conquérant et combatif. Certes, ce n'était qu'Andorre, mais les Français ont mis cette fois beaucoup de vitesse dans le jeu. Les 7 changements opérés par Didier Deschamps dans l'équipe de départ ont produit leur effet. La défense, totalement repensée, avec notamment la première sélection de Clément Lenglet, n'a jamais été inquiétée. D'où la satisfaction du capitaine Hugo Lloris.
Malgré le contexte, on a su se rendre le match facile en marquant très vite dans ce match. Je pense qu'on a été pro, on a montré beaucoup de sérieux. On a montré une bonne image de l'équipe de France.
Une belle soirée dans le froid andorran, en particulier pour 3 joueurs de l'équipe de France qui ont marqué hier soir leur premier but en bleu, Florian Thauvin, Kurt Zouma, mais aussi l'attaquant de poche, Wissam Ben Yedder.
C'est toujours une sensation énorme. Je me souviendrai toujours de ce premier but, ça c'est une certitude. C'est un rêve d'enfance. Mais encore une fois, voilà, on devait se rattraper aussi du match de la Turquie et on a fait le job.
Les Bleus ont surtout repris la tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2020 après la défaite de la Turquie en Islande. Les champions du monde sont partis en vacances, l'esprit libéré. Andorre, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Quant aux filles, elles affrontent les Norvégiennes ce soir dans le cadre du premier tour du mondial. Match à suivre évidemment sur Europe 1. Soirée spéciale à partir de 20h. À noter aussi l'incroyable score des Américaines championnes en titre. Elles ont battu les Thaïlandaises hier soir 13-0.
On continue avec les révisions du bac ou le foot. Faut choisir.
Oui, le compte à rebours a largement commencé. Premières épreuves lundi, les candidats choisissent souvent le calme des bibliothèques pour mieux se concentrer. De nombreuses communes leur proposent d'ailleurs d'en profiter en nocturne. À Fresnes, dans le Val-de-Marne, des sessions de révision sont même organisées avec un programme aux petits oignons, Virginie Salmen.
À l'intérieur de la bibliothèque, les salles de travail vitrées sont pleines. Le directeur, M. Beaufis, a donc fait installer des tables sous des barnums dehors pour gagner 40 places.
C'est des sortes de tentes comme on a dans les fêtes foraines, quoi. Il pleut, mais ça leur permet de réviser sous la pluie en étant tranquillement à l'abri.
Stacy et Licia révisent ensemble l'histoire géo.
Le 6 août 1941, les États-Unis, ils ont utilisé quoi ? À ton avis, si je te parle du Japon et tout, c'est l'arme ?
C'est pas l'arme nucléaire ?
Oui,
voilà l'arme nucléaire.
Mais contre la merde.
À Fresnes, c'est un programme 4 étoiles. Il y a aussi des profs qui viennent aider les élèves bénévolement. Une sophrologue pour faire baisser le stress. Et à 14h, la pause sucrée concoctée par Madame Daragus.
On prépare des thermos de café, de thé, avec des pommes à disposition.
Vous les chouchoutez en fait ?
Plus que ça même, je dirais. Les dorlotes.
L'opération Révision 2019, ça dure jusqu'à ce week-end, à la veille de la première épreuve, la philo.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, on leur souhaite bon courage aux futurs bacheliers.
Merci beaucoup. Vous avez eu combien au bac en philo ?
12.
Ça ne m'étonne pas de vous. Non, je plaisante, mais 12, c'est pas mal quand même, franchement. Et en maths, Hélène Zélani ?
Alors, je ne me rappelais plus.
Merci beaucoup, c'était le journal de 7h avec Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10, c'est l'heure, Nico, de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
On est dans une ambiance très festive ce matin sur Europe1.fr. Vous pouvez voir la Coupe du Monde, elle est à côté de moi, la Coupe du Monde de foot. Elle est grâce aux filles, on va encore rêver pendant plusieurs semaines. Et vous êtes où ce matin, Carole ?
Eh bien écoutez, je suis dans ma chambre d'hôtel, car je dois vous avouer quelque chose ce matin, Nikos. Je suis passée chez l'adversaire.
Je comprends pas.
Eh bien écoutez, j'ai passé la nuit dans l'hôtel où sont logées les footballeuses norvégiennes qui affrontent la France ce soir au stade Allianz Riviera. Je suis à Biot, c'est à 20 minutes de Nice environ, sans les bouchons. Et j'ai voulu sentir l'état d'esprit des norvégiennes. Alors ce qui est marrant, c'est que vous les croisez très vite dans l'hôtel. L'une qui revient en short de son jogging, une autre qui téléphone sur la terrasse. Et j'ai aussi croisé l'un des membres du staff qui les accompagne dans tous leurs déplacements.
Elles sont très sympas. Très très sympas, souriantes. Elles me disent toujours bonjour avant que je leur dise bonjour. Donc elles sont toujours agréables. Quoi.
Ça discute beaucoup dans le bus ?
Bah, je parle pas norvégien. Donc...
Vous vous entendez si ça parle beaucoup ?
Oui, ça parle. De temps en temps, pas tout le temps. Elles sont plus concentrées. Plus le jour s'approche, plus elles sont concentrées.
Qu'est-ce qu'elles font de leur journée, Carole ?
Eh bien écoutez, tous les jours, elles quittent l'hôtel en fin de matinée pour aller s'entraîner au stade Pierre de Coubertin à Cannes. Et vous savez quoi ? Elles ont demandé à leur chargé de com' de jouer la doublure de notre joueuse Wendy Renard. Il fait presque 2 mètres. Parfait pour s'entraîner à contrer celle qui a impressionné, hein, on s'en souvient, avec ses 2 buts de la tête en ouverture du match.
Elle a été très forte. Alors, gros entraînement pour les Norvégiennes. Est-ce qu'il y a des moments de détente ? Qu'est-ce qu'elles font, les joueuses ? Vous les avez croisées à la piscine ?
Non, la piscine, elle est magnifique, je dois vous avouer. Ouais. Mais personne ne les y a vues. Ouais. En revanche, les coachs de l'école de tennis juste à côté les ont bien aperçues en train de se balader.
Ouais, je les ai aperçues, elles se baladaient. Elles regardaient un petit peu tous les terrains, en claquettes, tranquille.
Et vous les avez senties comment ?
Relax, tranquille. Ouais.
Pas stressé.
Non, pas du tout. Elles ont discuté un peu avec une coach avec nous là.
C'est qui la coach ?
C'est Nanette.
Elle est là.
Eh ben voilà Nanette.
Bonjour.
Enchantée.
Carole Ferry. Je voulais vous demander, il paraît que vous avez pu discuter avec les footballeuses norvégiennes. Vous avez discuté de quoi ?
En fait, on a discuté surtout le moment de détente, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et donc, elles étaient très intéressées à voir nos entraînements.
Vous leur avez demandé dans quel état d'esprit elles étaient ?
Non, je n'ai pas demandé, mais j'ai vu que j'étais très en forme.
Très en forme, voilà, comme vous.
Exactement. Et ce que je peux vous dire, Nikos, c'est que la meilleure joueuse du monde, Ada Hedberg, oui. Est norvégienne. Mm-hmm. Oui, si vous arrivez à le dire mieux que moi, allez-y. Hein.
Je ne crois pas, c'est Ada Hedberg. Un truc comme
bravo.
Ça.
Bravo.
Je suis nul en prononciation.
Mais elle n'est pas dans l'hôtel. Hein. Elle a refusé de jouer cette Coupe du Monde pour protester notamment contre les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. On ne va pas se mentir, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous.
Vous avez vos claquettes ?
Oui, bien sûr. Mais
restez-y 2-3 jours comme ça, tranquille. Il fait beau en plus dans le sud.
Pour notre sujet de demain.
Mais évidemment. Les Bleus qui affrontent ce soir la Norvège, soirée spéciale dès 20h autour de Lionel Rousseau, avec notre consultante Sandrine Roux, et le trophée de la Coupe du Monde qui est ce matin à nos côtés dans notre studio ici sur Europe 1, rue des Cévennes dans le 15e à Paris. Et je peux vous le dire, il est magnifique. Tout à l'heure, Nicolas Barré l'a observé avec beaucoup, beaucoup d'admiration. Rendez-vous sur Europe1.fr pour l'admirer avec nous. Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde. Merci Carl Ferry.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Nicolas Barré, on parle de quoi ce matin ? Bonjour.
Bonjour Nikos. Les distributeurs vivent-ils sur le dos des agriculteurs ? Réponse tout de suite avec quelques surprises.
Ça, c'est un vrai sujet. À 7h20, Europe 1 va plus loin sur le dossier explosif de la Montagne d'Or en Guyane. Nous y serons en direct dans quelques instants. Le projet de mine géante, vous savez, à ciel ouvert, est-il réellement abandonné ? C'est un sujet ultra sensible sur lequel s'opposent des intérêts économiques et les écolos sur place. Enquête exceptionnelle ce matin à ne pas manquer depuis la Guyane. À tout de suite.
Très bon réveil, il est 7h14. Il est 7h17 et les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La prise d'otage à Condé-sur-Sarthe aura duré 5 heures. Un détenu qui souffre de problèmes psychiatriques retenait 2 surveillants qui sont sains et saufs. Il voulait un transfert dans un autre établissement. Édouard Philippe prononce un deuxième discours de politique générale cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre devrait préciser les annonces d'Emmanuel Macron après le grand débat et en fixer les priorités. Le médecin anesthésiste de Besançon fixé sur son sort aujourd'hui. Il saura s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire ou s'il est placé en détention provisoire. Le docteur Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients.
Europe 1.
Économie à présent, Nikos, c'est l'édito éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec le directeur de la rédaction du journal Les Échos, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
La polémique surgit régulièrement, c'est un vrai sujet, les distributeurs font trop de marge au détriment des agriculteurs.
Oui, c'est le sujet de tension des agriculteurs qui ont souvent du mal à joindre les deux bouts avec le fruit de leur travail et puis qui constatent que les prix des produits dans les magasins augmentent sans qu'ils en voient la couleur. Alors qu'en est-il vraiment ? Un rapport qui vient d'être remis au Parlement par l'économiste Philippe Chalmin décortique toute l'évolution des tarifs du champ à l'assiette, comme il dit, et ça donne quelques surprises. Premier constat très intéressant, sur 100 euros de consommation alimentaire, eh bien, savez-vous combien représentent les produits agricoles français produits sur notre sol ?
Allez-y.
Seulement 14 euros sur 100 euros de dépenses. Le reste, c'est quoi ? Ben, c'est 11 euros de produits alimentaires importés, par exemple de l'huile d'olive grecque ou un vin espagnol. Vous avez 10 euros de taxes. Et puis le reste de votre facture alimentaire, c'est la transformation par l'industrie, le transport, les coûts de distribution. Bref, sur 100 euros de dépenses alimentaires, vous dépensez en fait plus en transport ou en mètre carré de magasin qu'en matière première agricole. Ça veut dire que les prix que vous payez pour votre alimentation sont très largement déconnectés du revenu des agriculteurs, d'où ce décalage évidemment insupportable pour les agriculteurs entre ce qu'ils reçoivent et les prix qu'ils constatent dans les magasins.
Ouais, et l'autre surprise, en fait, ce sont tout simplement les marges des distributeurs.
Oui, l'idée reçue, c'est qu'elles sont élevées et que les distributeurs s'en mettent plein les poches. Bien, c'est pas tout à fait exact, c'est même assez largement faux, parce que la marge nette des distributeurs est de 1,2% du chiffre d'affaires. Ça n'est pas mirobolant, mais surtout, vous saurez la prochaine fois que vous ferez vos courses que ces marges varient énormément selon les rayons. Elles sont très élevées, par exemple pour les volailles ou la charcuterie, 5,5% de marge, beaucoup plus faible pour les fruits et légumes, 2%, mais négative pour la boucherie ou la poissonnerie. Sur ces rayons, les distributeurs perdent de l'argent. Ce ne sont donc pas les marges des distributeurs qui pénalisent les agriculteurs, même s'ils sont souvent pointés du doigt.
Merci beaucoup Nicolas Barré. Je vous conseille d'aller voir au cinéma le film Roxane avec Guillaume de Tonquédec. C'est justement un éleveur de poules qui est sur le point de fermer sa ferme, mais qui va essayer de trouver un système D pour relancer la machine.
Formidable.
Nicolas Barré, l'édito éco sur Europe 1.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h20, Nikos. Europe 1 va plus loin, direction ce matin la Guyane.
Le projet de mine géante à ciel ouvert de la Montagne d'Or est-il vraiment abandonné ? Ça devait être le gisement le plus prolifique de Guyane, avec 85 tonnes d'or à extraire en pleine forêt. Mais depuis 4 ans, il y a un débat très vif qui oppose les défenseurs de l'environnement à ceux du développement économique. Alors, faut-il autoriser cette mine industrielle ? Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, devait se rendre en Guyane demain. Eh bien, finalement, il reporte son voyage. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes-vous en direct de Cayenne ce matin, où les opposants à ce projet qui est gigantesque attendent toujours des certitudes ?
Exactement, alors ils en ont une. Le projet de la Montagne d'Or, tel qu'il était prévu, ne se fera pas, ça François de Rugy l'a dit. Ça devait être, vous le disiez, la plus grande mine à ciel ouvert de France. 2 km de long, 400 mètres de large. L'utilisation de cyanure pour aider à extraire l'or. Le tout dans une forêt exceptionnelle où nous emmène Laurent Kell, responsable du WWF en Guyane.
Ah bah c'est une forêt primaire très ancienne, hein, plus de 2000 espèces recensées dans la zone, dont 127 espèces intégralement protégées. En gros, une espèce d'arbre sur trois est spécifique à ce genre d'écosystème. Il y a bien sûr des grands félins comme le jaguar, enfin toute la faune de l'Amazonie.
C'est donc une sorte de sanctuaire que le gouvernement a voulu protéger, Théo.
Oui, ce qui déçoit les élus, qui défendaient, eux, le projet pour des raisons économiques et qui, du coup, ne baissent pas les bras. Rodolphe Alexandre est le président de la communauté territoriale de Guyane.
Que cela plaise ou que cela ne plaise pas, il y avait un projet sur près de 700 emplois directs, 1400 emplois en indirect.
Dans un secteur où le taux de chômage ?
Dans à plus de 23%. Alors, c'est un besoin essentiel. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. J'ai défendu Montagne d'Or, comme je pourrais défendre d'autres projets qui vont certainement sortir. On a écouté M. le ministre, puisque j'étais à Paris, il nous a reçus pendant plus d'une heure. Je pense que le dossier minier n'est pas fermé.
Le dossier n'est pas fermé, ça veut dire que la porte n'est pas fermée, dit le président de la collectivité territoriale de Guyane. C'est ça qui pose question, en fait, Théo.
Et oui, parce que la compagnie minière Montagne d'Or n'a pas l'intention non plus d'abandonner sa concession. Ses dirigeants disent dans un communiqué vouloir continuer le dialogue pour rendre ce projet compatible avec les exigences. C'est un souhait clairement affiché de poursuivre, peut-être avec un projet plus petit, peut-être sans utiliser de cyanure. Les associations environnementales restent en tout cas sur le qui-vive. Riot Bourg dirige le collectif Hors de Question.
Si la compagnie Montagne d'Or, qui a reçu un coup de pied dans le derrière par la porte, tente de passer par la fenêtre, ben nous l'attendrons derrière la fenêtre. Le rejet de ce projet par le gouvernement, ça permet de reposer les guerriers. Il faut que la compagnie Montagne d'Or comprenne, on ne va pas se laisser faire. Et s'il le faut, par affrontement physique.
Affrontement physique, dit-il. On comprend que même si le gouvernement a un discours plutôt d'apaisement, sur place, ce n'est pas du tout le même climat.
Oui, ce qui doit permettre de régler définitivement les choses, c'est la réforme du code minier que François de Rugy promet pour la fin de l'année. Les règles actuelles pour établir une mine datent du 19e siècle, pas du tout à la page en matière d'environnement. C'est donc bien ce texte qu'attendent maintenant aussi les populations autochtones qui vivent dans ces forêts, qui veulent défendre leur habitat. Christophe Yanouana-Pierre est leur porte-parole.
Notre priorité à nous, c'est de préserver l'eau qui, pour nous, est la plus grande richesse de la Guyane. Donc, interdire totalement le cyanure. Et notre objectif, c'est que les peuples autochtones aient le pouvoir de veto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Grand Conseil dirait non à un projet, ce n'est pas discutable, c'est juste fini.
Et oui, parce qu'au-delà de ce projet Montagne d'Or qui a capté toute l'attention, ce qui préoccupe, c'est que le nombre de permis d'exploration accordés aux compagnies minières est en augmentation. 14 nouveaux permis ces 3 dernières années.
L'avenir du projet très sensible de la Montagne d'Or en suspens. Merci Théo Manval en direct de Cayenne, en Guyane, pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Ce matin, Anissé, on va parler du don du sang.
Oui, notamment d'une méthode qui pourrait donner plus de souplesse en cas de pénurie.
Elle vous plaît, la Coupe du Monde ?
Mais magnifique.
Vous pouvez la retrouver également, chers auditrices et auditeurs, sur Europe 1.fr. A tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h24. Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Nikos.
Un peu d'espoir pour la transfusion sanguine à l'heure où on appelle à la mobilisation générale car les stocks de sang sont au plus bas. Vous arrivez ce matin, Anissé, avec une découverte. En fait, on aurait trouvé un moyen de convertir le sang vers un autre groupe.
Oui, de converture du sang de groupe A, le plus répandu en France, en sang de groupe O, le fameux donneur universel. Ce qui pourrait justement donner plus de choix, plus de souplesse lors des transfusions. Parce que vous le savez, il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Et c'est le O qui est le plus recherché, car on peut transfuser tout le monde, notamment aux urgences, quand on n'a pas le temps de déterminer le groupe sanguin d'une victime. Eh bien, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada ont réussi à retirer le petit A qu'il y a sur les globules rouges et donc à les transformer en sang de donneur universel.
Anissé, est-ce que c'est la première fois qu'on arrive à faire ce type de conversion ?
Alors non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'on y arrive de façon efficace et économique. C'est très important parce qu'on le rappelle, l'essentiel du sang est issu de dons, donc il est gratuit. Personne ne veut payer pour pouvoir le transformer. Avec la nouvelle méthode, ça sera beaucoup plus simple parce que l'enzyme, on en trouve partout et on en a besoin d'une toute petite quantité. Mais on rappelle quand même si ça portera plus de souplesse, le don du sang reste indispensable, donc il faut continuer à donner.
Donner, évidemment, car ce vendredi 14 juin, ce sera également la journée mondiale du don du sang. N'attendez pas, allez-y, ça dure 5 minutes et ça peut sauver une vie. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais votre sang pourra lui donner une deuxième possibilité. Lieu de collecte sur le site dondesang.efs.sante.fr. Je répète, dondesang.efs.sante.fr. Merci Anissé.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur EDF.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann. Tout de suite, la météo, Laurent Cabrol.
Allez, une météo, allez, en 30 secondes.
Allez-y, papa.
On y va. Nord, Picardie, Normandie, région parisienne, Limousin, Centre et Champagne-Ardenne, vers un temps agité, surtout cet après-midi, en particulier dans la capitale. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, averses, giboulées et orages. Dans le sud-ouest, tout le sud-ouest. Nous avons vers des éclaircies. En Lorraine, Morvan et Auvergne, quelques ondées. Vallée du Rhône et bassin méditerranéen du soleil. Alsace, Franche-Comté, Dijon et région lyonnaise. Agréable et lumineux. Température entre 16 et 18 au nord et entre 20 et 26 au sud.
Et le numéro complémentaire, la Coupe du Monde, qui est dans notre studio ce matin. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le mercredi 12 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal de 7h30 est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous le disiez, elle est là dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez la voir en direct sur Europe1.fr. La Coupe du Monde féminine, et on espère qu'elle restera à la maison. Les Bleus affrontent ce soir la Norvège à Nice à 21h. Sans doute son adversaire le plus difficile du premier tour. Les Bleus qui peuvent compter sur le public français à fond derrière elle. Julien Froment.
Après la Corée du Sud, les Bleus joueront une deuxième fois à guichet fermé. Les derniers billets se sont arrachés en quelques heures. Il y a bien eu un effet match d'ouverture sur les Niçois. Christine et Sandra ne voulaient manquer cette affiche pour rien au monde.
L'impatience d'avoir déjà l'équipe sur Nice. Puis on a confiance avec un 4-0, on se dit que ça peut pas aller plus mal.
Confiante. En plus, on a la leader de la Norvège qui joue pas en Norvège. Donc un point en moins pour les Françaises.
Et la leader évoquée, c'est Ada Hegerberg, la Ballon d'Or, qui est en conflit avec sa fédération. Son absence, c'est comme si l'Argentine jouait sans Lionel Messi ou la France sans Kylian Mbappé. Un boycott qui n'émeut pas la sélectionneur Corinne Diacre.
L'équipe de France va jouer contre la Norvège, non pas contre Ada Hegerberg. Une équipe qui s'est qualifiée sans elle. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Voilà, Ada Hegerberg a fait son choix. Mais c'est bien contre la Norvège que l'on va jouer.
Corinne Diacre, satisfaite du match d'ouverture, a précisé qu'elle alignera ce soir face à la Norvège le même 11 de départ, car elle ne veut pas changer une équipe qui a fait ses preuves. Nice, Julien Froment, Europe 1.
Rencontre à suivre en direct en intégralité sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde, soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau.
Et notez le score sans appel des Américaines face à la Thaïlande hier soir, 13-0 à Reims. Toute l'actu de cette Coupe du Monde à 8h35 avec Jérôme Lacroix. Un détenu habitué des prises d'otages a retenu pendant près de 5 heures deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe. L'homme de 35 ans, derrière les barreaux depuis l'âge de 16 ans, a fini par les libérer l'un après l'autre. Ils sont sains et saufs. Le détenu a été transféré à bord d'un convoi ultra sécurisé au commissariat d'Alençon où il a été placé en garde à vue.
Le docteur Péchier dormira-t-il en prison ce soir ?
La cour d'appel de Besançon va examiner aujourd'hui le maintien en liberté de l'anesthésiste mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement dont 9 mortels. Pour l'un de ses avocats, Randall Schwerdorfer, le docteur Péchier n'a rien à faire derrière les barreaux.
Avec mes deux autres confrères, on va refaire ce qui s'est à peu près passé devant le juge des libertés de la détention, déjà demander une audience publique. Il serait temps que le public connaisse des éléments à décharge concernant le docteur Péchier, puisqu'on ne parle que des éléments à charge. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup à décharge. Je connais la chambre de l'instruction, je sais qu'ils sont rigoureux, je sais qu'ils appliquent le droit. Pour moi, l'issue ne peut être effectivement que celle du maintien en liberté du docteur Péchier.
Mais Frédéric Bernat est lui avocat de la partie civile. Ses clients ne comprennent pas que l'anesthésiste soit toujours en liberté.
Les victimes en elles-mêmes, elles n'ont plus du tout les doutes qu'elles ont pu avoir à une certaine époque sur l'éventuelle implication du docteur Péchier. Les victimes sont choquées par cette situation et qu'elles estiment, alors à tort ou à raison, mais en tout cas c'est leur position, qu'elles ont le sentiment que le docteur Péchier bénéficie d'un traitement de faveur. Les éléments aujourd'hui, pour nous, sont très clairs. Elles ont véritablement le sentiment qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas placé en détention provisoire.
Propos recueillis par Charlotte Béchler pour Europe 1. Une collision entre deux bus scolaires hier à Objat en Corrèze. 9 enfants ont été légèrement blessés, la plupart très choqués. La conductrice du bus qui circulait seule a succombé à ses blessures. Et puis 3 jours après le drame de Lorient où 2 garçons ont été fauchés par une voiture, le chauffard et sa passagère restent introuvables. Mmh. Un avis de recherche a été diffusé par la police.
Le Premier ministre Édouard Philippe fait cet après-midi sa deuxième déclaration de politique générale.
Oui, l'occasion de préciser les gros chantiers qui attendent le gouvernement jusqu'au municipal. Dans l'actualité également, le Sénat a adopté le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn après y avoir injecté plusieurs nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. L'Europe doit dialoguer avec la Russie, laquelle doit de son côté faire des efforts. Déclaration d'Emmanuel Macron hier soir à la chaîne publique suisse RTS. Le président français a souhaité réenclencher une dynamique avec le président Poutine, mais il continue d'exclure à ce stade sa présence en août prochain au sommet du G7 à Biarritz, faute d'avancées tangibles dans la crise ukrainienne.
Europe 1, il est 7h34.
C'est un constat alarmant. Certaines entreprises prennent beaucoup trop de temps pour payer leurs factures.
Oui, des retards qui mettent régulièrement des sociétés en danger. Le médiateur des entreprises a analysé les factures envoyées à 9000 d'entre elles et le tout dernier baromètre publié aujourd'hui est loin d'être rassurant. François Geffrier.
Une facture sur 7 est tout simplement bloquée quelque part. Le chiffre est pire que l'année dernière. Sur près de 3 millions de factures analysées par la société SideTrade, 15% étaient bloquées contre 13% il y a un an. Et le temps qu'il faut pour résoudre un blocage s'allonge, 48 jours en moyenne, 4 de plus par rapport à la dernière étude. C'est parfois beaucoup plus long, comme le vit au quotidien Laurent Brouat, patron d'une petite entreprise de formation, l'école du recrutement.
Là, je suis sur des factures, j'en ai une dizaine, qui datent de un an. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas payé de facture depuis un an. Le délai normal, on est sur des paiements entre 60 et 90 jours. On a parfois effectivement des créances qui représentent 100 à 150 000 euros. Nous, on fait un chiffre d'affaires environ de 800 000 euros. Donc c'est un sacré montant quand même au final. Pour financer ça, j'ai eu besoin d'aller emprunter de l'argent.
Aucun secteur de l'économie n'échappe à ces retards qui ont souvent pour origine la complexité des démarches. Quand on veut se faire payer par un grand groupe, les petites sociétés ont du mal à anticiper et à s'en sortir quand un problème survient. Les retards de paiement sont la cause d'une faillite d'entreprise sur 4.
François Geffrier pour Europe 1 et puis une icône pour présider le 45e festival du cinéma américain de Deauville en septembre prochain. Catherine Deneuve qui a été choisie. Donc le festival aura lieu du 6 au 15 septembre.
Les icônes, on en a besoin toujours. Merci Céline Kallmann, vous êtes iconique ce matin.
Merci.
À côté de la Coupe du Monde, elle vous va bien. Vous jouez au foot ?
Pas du tout, non.
Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, bonne journée. À bientôt.
Mais je le regarde.
Mais bien évidemment. Merci.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, vous l'attendez ce moment, la politique avec Jean-Michel Apathy. On parle de santé.
Le Premier ministre va nous parler de politique générale. Ce matin, il va parler un peu de tout. Mais au gouvernement, on est très, très inquiet de la crise qui se déroule dans les hôpitaux. Grève générale hier. Je vous raconte tout ça. Il y a vraiment des motifs d'inquiétude.
Avec plaisir. Axel de Tarlé.
Moi, c'est le pétrolier BP qui nous prévient qu'on est entré dans un cercle vicieux en termes de réchauffement climatique.
Ouais, c'est un pétrolier
c'est très réjouissant. Et c'est un pétrolier qui le dit.
Très bien. Apathy Tarlé, vous les attendez. Ils sont là avec la Coupe du Monde dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h37. Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Une centaine de services d'urgence dans les hôpitaux en grève hier, la sécurité sociale qui replonge dans le rouge, la ministre de la Santé Agnès Buzyn entre en zone de turbulence, vous nous dites ce matin Jean-Michel ?
Oui, en zone de turbulence parce que évidemment l'hôpital c'est toujours un lieu très sensible quand des infirmières, des aides-soignants se mettent en grève, ont des revendications, ils ont spontanément le soutien de la population parce que nous voulons tous que ces gens qui travaillent pour notre santé, qui prennent en charge des maladies très difficiles aient les meilleures conditions de travail possibles. Donc ça, c'est un premier motif d'inquiétude, évidemment, pour le gouvernement. Mais il y en a un second. Beaucoup de ministres ont noté que l'une des revendications de ces infirmières, ces aides-soignantes, dans les services des urgences, mais dans l'ensemble des hôpitaux, c'est une augmentation de 300 euros des salaires. Ouais. Et ça, pour eux, ça sonne comme les Gilets jaunes, qui demandaient la même chose. C'est comme une prolongation de la revendication des Gilets jaunes. Mmh. En France, la moyenne des salaires, 1500-2000 euros, on ne finit pas les fins de mois. On a du mal, avec la masse d'impôts, de taxes, à vivre de manière à peu près acceptable. Et donc, beaucoup de responsables au gouvernement, au moment où le Premier ministre prépare son discours de politique générale, voient ça comme une inquiétude, comme un signal, comme une revendication qui monte d'une augmentation non pas seulement des bas salaires, mais de l'échelle moyenne des salaires, et que ça peut être un objet important de débat dans les mois à venir, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est un motif d'inquiétude, parce que personne ne sait comment répondre à ça. Si on prend l'exemple précis de la santé, 300 euros d'augmentation des salaires, et puis l'autre grande revendication des soignants, c'est 10 000 postes supplémentaires dans les urgences, parce que l'afflux de malades dans les urgences justifie amplement qu'on crée des postes. Mais comment on le fait ? On a appris hier, vous le disiez à l'instant, Nikos, que la sécurité sociale va replonger dans le rouge. On dit replonger parce qu'on pensait qu'elle serait bénéficiaire cette année. Mais en fait, elle sera déficitaire pour la 20e année consécutive. Pour la 20e année consécutive en France, nous ne sommes pas capables de payer les soins que nous consommons. Quelquefois, on dit que les déficits sont utiles parce que le déficit, ça porte de l'investissement. Là, c'est de la consommation pure et nous n'arrivons pas à la payer. La sécurité sociale, c'est le joyau national depuis 1945 et nous n'y sommes pas assez attentifs. 20 années de déficit continu, c'est irresponsable, c'est comme un crime social que nous sommes en train de commettre parce que, à force, c'est la sécurité sociale qui va disparaître. Nous sommes incapables d'accroître les ressources de la sécurité sociale. Comment le faire ? Augmenter les taxes, la CSG, c'est absolument impossible. Et nous sommes devant cette impasse-là. Et cette impasse-là, évidemment, c'est un motif d'inquiétude pour le gouvernement, mais pour tous ceux qui projettent de gouverner, parce que nous ne savons pas comment régler cette très difficile question de faire face à une offre de soins qui est de plus en plus coûteuse, nous n'arrivons plus à la financer.
Merci Jean-Michel Apathy, c'était votre analyse politique. Axel de Tarlet, un cercle vicieux, hein, d'un cercle vicieux à un autre, on parlait de la sécurité sociale, là on va parler du dérèglement climatique qui accroît nos besoins en énergie, et le comble, c'est que c'est un pétrolier qui le dit.
Oui, c'est de quoi il parle, hein. C'est le géant britannique du pétrole BP qui effectivement explique qu'on est maintenant entré dans un cercle vicieux, alors non pas à cause du réchauffement, mais à cause du dérèglement climatique. Pourquoi je parle de dérèglement ? Parce qu'on est confronté à des températures extrêmes. On en parle peu, mais la semaine dernière, par exemple, en Inde, dans le Rajasthan, on a dépassé les 50 degrés. Le 3 juin, il a fait 50,8 degrés dans le Rajasthan. Mmh. Et à l'inverse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février dernier, dans la région de Chicago, aux États-Unis, on a flirté, à l'inverse, avec les moins 50. Vous voyez, aux États-Unis, jamais depuis les années 50, les températures n'ont été aussi extrême, donc très chaud, mais aussi très froid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut du chauffage en hiver et beaucoup de clim en été. Vous voyez, deux fois plus de raisons de consommer de l'énergie. C'est ce cercle vicieux dont parle BP qui constate qu'en dépit d'un ralentissement économique, eh bien, la consommation mondiale d'énergie a encore augmenté l'an dernier, plus 2,9%, avec à la clé des émissions de CO2 en hausse de 2%.
Sauf si on utilise de l'électricité propre, en fait.
Ah voilà, alors ça
des
c'est le...
ou autre chose.
Du solaire, voilà. Ouais. C'est le combat du siècle, des énergies propres, mais on en est malheureusement très loin. En Chine, les deux tiers de l'électricité viennent du charbon. Et puis, il y a un autre danger qui nous guette avec ces températures extrêmes, on en a parlé, c'est la généralisation mondiale des climatisations, très grosses consommatrices d'électricité. Aux États-Unis, 90% des logements sont climatisés, mais d'autres pays s'y mettent. Alors, on en parlait à l'instant, l'Inde. En Inde, aujourd'hui, il n'y a que 10% des Indiens qui ont la clim, mais le pays est en train de s'équiper massivement. En été, à New Delhi, la climatisation représente 40% de la consommation d'électricité. Puis alors, le problème de la clim, c'est qu'elle rejette de l'air chaud dans les rues, dans les villes. Donc en fait, vous voyez, c'est plus compliqué, c'est tout l'urbanisme. Ce sont les bâtiments qu'il va falloir revoir pour conserver davantage la chaleur. Vous voyez, à défaut de contenir ce réchauffement, il va falloir s'y adapter. On comprend que cette question écologique soit au cœur des préoccupations. Et d'ailleurs, je crois qu'il en sera largement question cet après-midi lors du discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe.
Axel de Tarlet, le Zoom Éco sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Cette décennie de scoops, des reportages, des photos chocs. Paris Match fête ses 70 ans. Comment l'hebdomadaire est-il devenu incontournable dans le paysage médiatique français ? On en parle dans un instant avec le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, Olivier Royan. A tout de suite.
Excellente matinée sur Europe 1. Il est 7h45. Il est 7h47, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe, peu après minuit et demi. Deux surveillants, un homme et une femme, ont été retenus plusieurs heures par un détenu, condamné à de multiples reprises. Il a été placé en garde à vue. Édouard Philippe prononce aujourd'hui la deuxième déclaration de politique générale du quinquennat Macron. Il doit préciser les contours de l'acte 2. Esquissé fin avril par le chef de l'État au sortir de la crise des Gilets jaunes. L'anesthésiste de Besançon ira-t-il en prison ? La cour d'appel va examiner aujourd'hui le maintien en liberté du docteur Péchier. Il est mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels.
Europe 1. Paris Match fête ses 70 ans. Depuis des décennies, l'hebdomadaire qui appartient comme Europe 1 au groupe Lagardère est incontournable dans le paysage médiatique français. Comment fait-il pour construire sa légende ? Quelles sont ses recettes pour rester numéro 1 ? Nikos, vous recevez ce matin Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match.
Déjà avant de rentrer dans le dur de notre discussion, Olivier Royan, comment était la soirée des 70 ans de Paris Match hier soir ? C'était la soirée qu'il fallait pas rater à Paris.
Très bien, super. C'était une soirée où il y avait tout le mix de Paris Match, tous des univers qui se sont croisés. Alors Jean-Paul Belmondo et Alain Delon sont arrivés ensemble. Il y avait aussi des politiques qui ont un peu bloqué le quartier déjà avec leurs motards et avec les cortèges. Mmh. Et puis il y avait des artistes. On avait trois formidables. On avait Christophe Maé, on avait Christophe et puis on avait Nash qui ont chanté. Jean-Paul Gaultier et puis les grands explorateurs, ceux qui ont fait les grandes histoires de match. Il y avait Bertrand Piccard, il y avait Jean-Louis Etienne qui en 86 est allé tout à pied jusqu'au pôle Nord. Donc c'était émouvant. Et puis Jean-Claude Killy, toute la famille de match était réunie.
Comment est-ce qu'on gère un magazine qui est plus vieux que soi ?
En pensant au fondateur, au pionnier qui finalement en 49, quand il lance ce magazine, ont une formidable enthousiasme journalistique. C'est pas facile la France de 49, c'est une France qui a des tickets de rationnement, c'est une France qui a du mal à s'extraire de la guerre. Mmh. Et là, alors ils n'ont pas fait les écoles de journalistes, les reporters, les premiers reporters de matchs et photographes, c'est plutôt l'école de la guerre, mais ils ont un enthousiasme formidable, cette volonté de en-delà d'une fraise française qui est souvent idéologique, de couvrir l'aventure humaine. Ça va être au coin de la rue, à l'autre bout du monde, mais on va pas simplement couvrir l'actualité, on va couvrir ceux qui la font.
Ça, c'est l'ADN, hein, l'ADN. Et parce que les débuts ont été plutôt compliqués quand on a lancé.
Très compliqué, petit appartement 49 autour de Jean Prouveau, c'est un grand industriel qui avait déjà lancé match dans les années 30, et puis ça démarre un peu difficilement. Alors, ils mettent beaucoup de guerre en couverture de match, ils mettent beaucoup des choses un peu tristes, le pont aérien avec Berlin, et puis quelques mois après, 4-5 mois après, ils mettent en couverture, ils choisissent de changer un peu de leur fusil d'épaule, ils mettent le mariage de Rita Hayworth avec l'Aga Khan. Et ouais. Là, tout d'un coup, ben, les gens vont un peu plus se tourner vers match et ils vont dire finalement on va garder la guerre peut-être pour l'intérieur et puis on montrera une affiche peut-être plus accueillante qui sera peut-être le visage d'une actrice qui sourit.
Et puis il y a eu d'autres ensuite moments people de l'époque en 57, la visite d'Elisabeth II, l'interview de Jacques Mesrine pour être dans l'actu et dans le fait divers en 78. Il y a des moments forts, des moments éditoriaux qui font partie de la vie des gens qui sont passés par Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, ça c'est le slogan historique.
Oui, bien
est-ce
sûr.
Qu'il vaut encore aujourd'hui ?
Bien sûr, alors il y a eu beaucoup d'imitations, tout le monde a voulu être dans le choc, tout le monde a voulu être aussi dans le poids du commentaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'informe plus, on s'exprime, tout le monde s'exprime. Alors c'est vrai que ce poids des mots, ce choc des photos, il est important parce que c'est un peu l'idée de la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire montrer la vie telle qu'elle est avec une société française qui souvent a du mal à se regarder en face. On peut montrer beaucoup moins d'images aujourd'hui en 2019 qu'on le montrait dans les années 50, 60, où les gens finalement était habitué à une réalité beaucoup plus dure. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de provoquer le choc des photos. On a eu une discussion, par exemple, cette semaine en faisant ce numéro anniversaire sur la question des... On a réuni les greffés du visage et les greffés des
vous
mains.
Vous publiez la photo.
Et on publie cette photo, d'ailleurs qui est une photo qui n'a pas été réalisée par nous, qui a été faite par les équipes du National Geographic aux États-Unis. Mm-hmm. Mais la question a été de dire, a-t-on droit de publier cette photo ? Est-ce qu'elle n'est pas choquante ? Parce qu'on voit un visage, finalement, on voit les médecins autour de la table d'opération avec ce visage qui va être transplanté sur un autre être humain. Elle est choquante, mais c'est la vie telle qu'elle est.
En même temps, Olivier Royan, vous posez cette question alors que des images choquantes sont inondées des réseaux sociaux
bien
toute
sûr.
La journée.
Bien sûr, et surtout cette idée qu'on a de vouloir, on a très très peur de finalement d'être envahi. On a toujours fondé notre démarche journalistique à la fois sur l'aventure humaine et sur le vrai. Ce qui est important, c'est que nos pionniers cherchaient un journalisme de terrain à la recherche d'une vérité des faits. Alors tout le monde a sa vérité, bien sûr, mais il y a une vérité des faits qui existe. Et c'est vrai qu'on a peur d'être envahi par la rumeur. On a peur un jour de publier une fausse photo. On a peur de publier quelque chose de
la
monté.
La donne a changé. Ouais.
La donne a changé. Il faut être extrêmement vigilant, faire attention. Avec
limite,
qui on travaille.
De passer une limite à point de non-retour, c'est ça ?
Oui, et puis surtout d'en chercher la marque un jour. On a toujours la peur de publier une photo qui ne serait pas une photo vraie. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant. On est des marques, vous disiez tout à l'heure, Europe 1, Match, on est des marques, on veut rester des repères parce que les gens ont la possibilité, même dans ce brouhaha médiatique extraordinaire où une rumeur ou une fausse nouvelle peut tourner en boucle, et ben on a la mission d'être un repère.
70 ans, 3650 couvertures. C'est quoi une bonne couverture ?
Alors une bonne couverture, Nico, c'est celle que l'on fait au moment où on doit la faire avec ce qu'on a en main. C'est-à-dire, alors parfois l'actualité qui l'impose. Hein. Le soir de Notre-Dame, on a tout cassé. On avait un magnifique sujet sur la restauration de Notre-Dame au mur, de 8 pages, avec une équipe qui était restée sur le toit de Notre-Dame pendant 3 semaines. Mmh. Eh bien, on a tout cassé, puis on a cherché quelle allait être l'image, cette photo qui pourrait nous différencier des autres, même si tout le monde a fait un peu Notre-Dame ce soir-là. Eh bien, une photo, on avait choisi un plan assez large d'un vaisseau de pierre en train de brûler avec tout de même l'île de la cité autour. Pour moi, c'est ça la belle couverture. Autrement, c'est la couverture qui probablement essaiera de fédérer au maximum. Match, depuis sa création, est un média qui essaye de fédérer des audiences, des gens différents qui viennent un peu de tous les horizons.
Un peu aussi comme un équilibriste, parfois dans le fait divers, parfois dans le people. Là, vous avez par exemple en une Sophie Marceau.
Exactement. Bon, Sophie Marceau, c'est vraiment, dans l'histoire de Match, et encore aujourd'hui, l'actrice qui fédère le plus, l'actrice préférée des Français. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est ce mix, finalement. Le public français des années 50, 60, 70 a accepté ce mix qui est un peu inimitable. On a essayé d'imiter Match, des groupes de presse ont essayé de lancer un peu l'équivalent aux États-Unis. Ça ne marche pas, seuls les Français, d'une certaine manière, acceptent que l'on mélange au milieu du journal la guerre, la religion, la mode, tous ces sujets. Le droit de s'intéresser à tout.
Merci Olivier Royan, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match, Match qui fête ses 70 ans avec un numéro spécial dont on a parlé, et puis une collection de hors-série aussi, les décennies de match, il y aura 7 volumes. Wendy Bouchard y reviendra en longueur dans le tour de la question ce matin sur Europe 1 de 10h à 11h, et puis dans le dernier numéro vous avez une interview remarquable de Bono. Merci d'avoir été des nôtres. Merci.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, le grand oral d'Edouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale. Il doit lancer l'acte 2 du quinquennat. Quelle réforme? Quel projet? Détails et informations dès le début du journal de 8h. Et puis dans une minute, un cri de colère pour ne pas oublier les héros du 11 septembre. Ce sera la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
Une belle matinée avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 7h54. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Et vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous parlez du 11 septembre et d'un homme en colère.
Oui, c'est une colère froide et cet homme s'appelle John Stewart. C'est un célèbre animateur aux États-Unis, devenu porte-parole des secouristes du World Trade Center. Les pompiers, les policiers, tous ceux qui se sont précipités dans les ruines des tours jumelles, qui ont respiré des poussières toxiques et qui sont malades aujourd'hui. Une colère froide, en effet, on va l'entendre, contre le Congrès, contre cette salle d'audience aux chaises vides, cette indifférence au fil des années. Pourtant, il faut toujours soigner, indemniser, débloquer les fonds, le faire proprement. C'est pour ça qu'il est là, John Stewart. Et c'était il y a quelques heures à Washington. Behind me, a
filled room. Derrière moi, c'est une salle pleine de secouristes. And in front of me, et face à moi, c'est un congrès presque vide. Vous devriez avoir honte. Toutes ces grandes phrases, n'oublions jamais les héros du 11 septembre, ce qu'ils ont accompli ce jour-là, ce qu'ils ont donné à leur pays. Eh bien, les voici, ils sont là. Ces gens ont fait leur travail avec courage, grâce, humilité. Alors, 18 ans plus tard, faites le vôtre.
Do yours. Voilà, on entend toute la puissance de ce discours. Je vous en parle ce matin parce qu'il est très partagé. Vous le verrez sans doute sur les réseaux aujourd'hui. Vous verrez aussi le regard digne des secouristes du 11 septembre qui sont en effet dans la salle. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est pour eux que Bruce Springsteen avait écrit cette chanson il y a quelques années, The Rising.
The Boss, pour dire les choses, les signifier et le partager, le faire savoir. Merci beaucoup. C'était la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite la météo Nikos avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol.
Oui, ça ne change pas beaucoup depuis hier. Donc sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, nous aurons encore pas mal d'averses et de giboulées. Sur le Nord, la Picardie, la Normandie, la région parisienne, le Centre, le Limousin et la Champagne-Ardenne, ce sera un temps agité, surtout en deuxième partie de journée, en particulier sur Paris, avec des orages là aussi, parfois, et en tout cas de grosses averses. Dans le sud-ouest, c'est pas trop mal quand même. Allez, Alsace, Franche-Comté, Dijonais, région lyonnaise, c'est même agréable. Et sur des régions comme la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen, ce sera ensoleillé. Tiens, pour le match de ce soir, des dames, des bleus, eh bien, ce sera ensoleillé. Enfin, ensoleillé. Si c'est encore jour. Oui. Les températures entre 15 et 20 degrés, 19 à Paris, et sur la moitié sud, entre 20 et 26 degrés. 26 à Bastia. Hein.
C'est bien, là, on est dans les normes.
En ce moment, à Bastia, ils sont vraiment gâtés. Hein.
On vous aime, les Corses. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Et merci à vous de nous avoir choisis ce mercredi 12 juin. Bon réveil, les 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec celui qui est revenu à son poste, David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Des réformes. Lesquelles? Dans quel ordre? Pour quel projet de société? Discours de politique générale cet après-midi. Édouard Philippe va devoir donner corps au deuxième temps du quinquennat promis par Emmanuel Macron. La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe est terminée. Les deux surveillants sont sains et saufs. Le détenu s'est rendu un peu après minuit et a été placé en garde à vue. Nous serons avec notre envoyé spécial sur place dans un instant. Et puis, peut-on lire les grands textes classiques à des volailles? La réponse est oui, Nikos. C'est le thème du film Roxane qui sort aujourd'hui. Mathieu Charrier viendra nous en parler.
8h12, et si Lula avait été victime d'un complot? Des informations de presse font vaciller le gouvernement Bolsonaro. Vincent Herouet nous donnera tous les détails tout à l'heure en nous emmenant au Brésil. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Christian Estrosi, le maire des Républicains de Nice.
Europe 1.
Un discours de politique générale, un débat avec les oppositions, les présidents de groupe prendront la parole, puis un vote de confiance. Voilà ce qui va se passer à partir de 15h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Que va dire le Premier ministre? Quelle réforme? Dans quel ordre? Tous les arbitrages sont-ils rendus à l'heure où nous vous parlons? Voilà pour les questions. Les réponses, c'est avec Aurélie Herbemont.
Édouard Philippe va donner le coup d'envoi opérationnel de l'acte 2, l'occasion de préciser les annonces post-grand débat du chef de l'État et surtout de donner un calendrier, un ordre dans les priorités, car le nombre de chantiers risque de provoquer un embouteillage au Parlement. Assurance chômage, retraite, écologie, services publics, dépendance, sans oublier les baisses d'impôts. C'est au déjeuner qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron procéderont aux derniers arbitrages. Le suspense, c'est est-ce qu'on commence par une réforme écologiste, sociétale ou sociale, confie un conseiller du Premier ministre qui ajoute il y aura forcément de l'économie. Écologie assez tôt. Les européennes sont passées par là. L'aile gauche de la majorité, elle, plaide pour que la PMA arrive vite. Le résultat du vote de confiance sera en tout cas observé à la loupe. Les troupes de la majorité seront au rendez-vous, mais pas sûr qu'on assiste aujourd'hui à son élargissement. Un proche d'Édouard Philippe relativise. La poutre travaille par ailleurs chez les élus locaux.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La poutre travaille encore, phrase fameuse du Premier ministre qui décrit souvent ainsi la recomposition politique commencée en 2017 et qui, selon lui, est loin d'être terminée. Le secteur privé crée de l'emploi. Les chiffres de l'INSEE pour le premier trimestre 2019 viennent de tomber. 0,4% d'augmentation avec 92 800 créations de postes.
La prise d'otage de la prison de Condé-sur-Sarthe est bel et bien terminée.
Oui, le forcené s'est rendu auprès des hommes du raid un peu après minuit. Les deux surveillants sont sains et saufs. Ce récidiviste qui en est à sa cinquième séquestration en milieu carcéral a été placé en garde à vue. Il avait enfermé à partir de 19h40 les deux gardiens dans sa cellule. Et nous rejoignons sur place Mathieu Bock. Je rappelle qu'il y a à peine 3 mois, un autre détenu, quant à lui radicalisé, avait blessé 2 surveillants dans cette même prison à l'aide d'un couteau en céramique. On imagine l'exaspération des personnels qui, à l'époque, avaient fait grève un peu partout en France. Est-ce que l'on doit, Mathieu, s'attendre à une nouvelle mobilisation ?
Eh bien écoutez, oui, hein, c'est en tout cas ce que certains responsables syndicaux annonçaient dès hier soir, une mobilisation sans toutefois préciser comment elle prendrait forme. Mais alors que la prise d'otage était toujours en cours dans la soirée, ses représentants s'indignaient que ce détenu, un multirécidiviste qui avait déjà pris en otage des surveillants par le passé à 5 reprises, vous l'avez dit, et qui avait annoncé qu'il allait le refaire, puisse comme ça être désigné par la direction de la prison pour distribuer le repas à ses codétenus. Des indices de son passage à l'acte imminent avaient même été décelés par le personnel pénitentiaire dans les jours précédents, mais ce personnel n'avait visiblement pas été écouté. Alors spontanément, hier soir, une centaine de gardiens de Condé-sur-Sarthe, mais aussi des environs, sont venus devant la prison pour manifester leur soutien à leurs collègues retenus en otage, qui sont ressortis sains et saufs, mais très fortement choqués, c'est ce que nous a précisé le ministère de la Justice.
Mathieu Bock, l'envoyé spécial d'Europe 1, Condé-sur-Sarthe. Sur Sarthe, merci à vous Mathieu. L'anesthésiste Frédéric Péchier, il est soupçonné, vous le savez, d'avoir empoisonné 24 patients au cours d'interventions chirurgicales. On attend aujourd'hui la décision de la cour d'appel de Besançon. Les magistrats doivent dire s'ils le maintiennent en liberté sous contrôle judiciaire ou bien s'ils le placent en détention provisoire.
On va partir maintenant à Hong Kong.
Oui, puisque la jeunesse de cette île chinoise est peut-être en train de faire plier Pékin en cause. Un projet de loi qui vise à autoriser les extraditions depuis Hong Kong vers la Chine continentale. Et le peuple hongkongais est dans la rue. Plus 1 million de personnes dimanche. Les manifestations continuent en ce moment même. Marguerite Lefebvre nous a rejoint dans ce studio. Coup de théâtre cette nuit, Marguerite. Face à la mobilisation, les autorités hongkongaises ont annoncé le report de l'examen de ce projet de loi.
Oui, c'est une victoire pour des centaines de milliers de manifestants. Ce matin, c'est une foule immense à nouveau qui s'est massée dans le quartier du gouvernement, bloquant toutes les rues alentour. Des centaines de commerçants ont décidé de fermer boutique. Les chauffeurs de bus se sont mis d'accord pour rouler le plus lentement possible. Et c'est dans cette ville, donc en partie paralysée, que l'annonce a eu lieu. L'examen du texte ultra controversé est reporté à une date ultérieure. Une victoire ou plutôt un premier pas pour tous ces manifestants, masques sur le visage, qui ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont toujours, à l'heure qu'il est, en train de bloquer Hong Kong pour faire plier le gouvernement pro-Pékin pour que ce texte ne soit pas seulement reporté, mais totalement abandonné. Un texte qui, on le rappelle, permettrait les extraditions vers toutes les juridictions, sans distinction, y compris donc, vous le disiez, vers la Chine continentale, une justice des plus opaques que redoutent de nombreux Hongkongais.
Marguerite Lefebvre, merci à vous Marguerite pour ces précisions.
Europe 1.
À suivre dans le journal, connaissez-vous le Ferré en Bretagne? C'est la mairie championne de France pour les papiers d'identité. Elle les délivre en un temps record. La voilà, hein, victime de son succès. On vous explique comment et pourquoi en quelques instants avec David Doucan.
Votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan, vous nous emmenez en Bretagne ce matin.
Oui, précisément dans une petite commune de 700 habitants, le Ferré est championne de France pour les papiers d'identité. On y obtient un rendez-vous très rapidement et cela c'est su, figurez-vous. Résultat, on y vient de toute la France quand on a besoin de papiers en urgence, ce qui arrive souvent à l'approche des vacances. Reportage François Coulon.
À la mairie du Ferré, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Là, depuis 2-3 mois, on passe nos journées à faire ça. Une très grosse pression au téléphone quand on les a pour un rendez-vous.
Le bouche à oreille fonctionne bien.
Au Ferré, 700 habitants, le mot d'ordre, c'est service public express avec délivrance de passeport et carte d'identité en 3 semaines. On vient parfois de très loin pour profiter de l'aubaine.
J'habite à Paris, j'avais 6 mois pour obtenir un passeport. Et je pars jeudi matin. Donc nous sommes là. Merci beaucoup, bon après-midi.
On reçoit les gens dans la semaine, vous vous rendez compte? Sinon je ne pouvais pas partir, c'est miraculeux.
Ici, monsieur le maire n'hésite pas à délivrer lui-même des passeports le dimanche, Louis Potret.
On nous dit tellement que tout ce qui est petit, il faut le supprimer. Là, l'habitant parisien de Bordeaux, de Nantes, il va venir trouver sa bouée de sauvetage sur une commune rurale de 700 habitants. On est aussi indispensable que les métropoles et les grandes capitales. Je trouve ça magnifique.
50 documents délivrés chaque semaine, l'opération n'est absolument pas rentable. Une secrétaire à temps plein pour une indemnisation annuelle autour de 9000 euros. La démarche se veut militante. Le Ferré, François Coulon, Europe 1.
Et les sorties cinéma, puisque nous sommes mercredi. Et la tête d'affiche, mon cher Nico, c'est une poule.
Ah, j'adore.
Eh oui. Elle s'appelle Roxane, le film aussi. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Racontez-nous Mathieu cette histoire qui est tirée de faits réels.
Oui, je vous présente tout d'abord Raymond, un éleveur de poules pondeuses bio en Bretagne. Mais Raymond, figurez-vous, a un petit secret.
5693 œufs, les filles, bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac.
Et oui, du Cyrano de Bergerac, car Raymond est fan de grande littérature et il en lit à ses poules en cachette, hein, ainsi sous un arbre discrètement. Il y avait plus de 1000 poules sur le tournage, mais personne n'est au courant de cette passion dans son entourage. Sauf que le jour où la coopérative lui annonce que c'est terminé, elle ne lui achètera plus ses œufs. Raymond n'a pas le choix. Pour faire le buzz sur Internet, il décide de jouer ses grands textes avec Roxane, donc sa poule préférée. Raymond est interprété par Guillaume de Tonquédec.
Ça va réveiller les foudres de sa famille et de ses amis. Et il va quand même continuer à se battre. Donc c'est une histoire d'amour au pluriel. Amour pour la terre, amour pour les mots. Amour pour sa femme qu'il va falloir reconquérir. Et amour aussi pour son exploitation, ses enfants et la valeur de la transmission. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressaient dans ce film.
Et la réalisatrice Mélanie Offray, petite fille de paysan, ça sent. Hein. Bref, Roxane est un film humble et emballant qui permet de bien comprendre l'attachement des paysans à leur terre et à leurs bêtes. Une comédie rurale réussie comme il y en a peu.
Mathieu Charrier.
Bravo. Super film, Mathieu. Vraiment, super, allez le voir, ouais. Guillaume de Tonquédec au top. Formidable. Vraiment, il y a de la tendresse. Et puis c'est la France qu'on aime
France,
aussi.
Exactement.
J'hésitais à aller voir X-Men, mais vous m'avez fait changer d'avis.
Roxane, la poule. Poule quoi.
Et Mathieu Charrier, donc le critique cinéma d'Europe 1. Merci à vous, Mathieu. Coupe du monde de football.
Coupe absolument. Du monde de football. Elle est où la Coupe du monde?
Elle est juste derrière vous. Voilà. Vous avez l'air
de façon absolument injustifiée. Elle est à mes côtés. Venez nous voir sur europa.fr.
Les Françaises affrontent ce soir la Norvège à Nice. Elles sont déterminées à aller chercher cette fameuse coupe que vous êtes presque en train d'embrasser, Nico, je le dis pour nos auditeurs. Il faudra bien sûr se méfier des Américaines. Elles ont hier écrasé la Thaïlande 13-0. Je vous donne aussi des nouvelles des garçons.
S'il vous plaît.
Les champions du monde se sont rassurés hier soir, 4-0 en Andorre. Pour rappel, ils avaient perdu 2-0 en Turquie. Ce sont les qualifications pour l'Euro 2020.
Merci David Doucan. À demain.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, Nico, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet.
Avec du très lourd ce matin. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nico. Bonjour
Brésil.
Céline.
Au Brésil, les juges anticorruption qui ont fait condamner l'ancien président Lula se retrouvent à leur tour en accusation. Ils auraient manœuvré pour l'empêcher de revenir au pouvoir. C'est grave.
Ça fait 2 jours que les Brésiliens se posent la question et se demandent si l'affaire va faire pchit ou si elle va faire tomber le gouvernement Bolsonaro. S'il s'agit d'une bombe atomique ou d'un pétard mouillé. Mmh. Ça fait 2 jours que le site The Intercept a commencé à diffuser les SMS, les emails, les chats, les vidéos qu'échangeaient les magistrats qui ont conduit l'enquête Lavage Express. C'est eux qui ont expédié derrière les barreaux des centaines d'hommes d'affaires et de politiciens et barré la route à Lula, qui était le favori de la présidentielle en 2018. The Intercept dévoile des bouts de conversations privées qui ont été piratés sur Instagram, la messagerie soi-disant inviolable. Ça date de 2016.
N'est-ce pas Telegram ?
Telegram, pardonnez-moi, ouais, ouais. Instagram, décidément. Bon, bon, c'est sur Telegram, la messagerie qui est vraiment inviolable, ouais. Et qui donc, ça, on voit à quel point elle l'est peu. Le juge Sergio Moro, le monsieur prof du Brésil, discute avec les procureurs dans cette messagerie, et il cherche à coincer Lula, qu'il considère comme le donneur d'ordre de tout le réseau de corruption, et ils s'entendent comme larrons en foire. Mais justement, c'est totalement illégal. Au Brésil, le juge doit être indépendant. Il n'a pas à donner de conseils et de directives au procureur. Alors, quand on écoute au port, tout devient suspect. Ce que The Intercept dénonce et entend, c'est une conspiration politique. Le juge Moro a-t-il franchi la ligne jaune ? Eh bien, il est désormais le super ministre de la justice de Jair Bolsonaro. Et pour la gauche, ça répond à la question. Il a franchi la ligne jaune et il roule à contresens sur l'autoroute du progrès. Il faut donc l'arrêter. La Cour suprême étudiera dans deux semaines la demande de libération de l'ancien président, condamné à 8 ans. Ce n'est pas la grande évasion ou la revanche de Monte Cristo qui se prépare, mais Lula vient de se rapprocher de trois cases de la sortie.
En tout cas, une partie des journaux, Vincent Hervouette, ainsi que les réseaux sociaux, réclament un nouveau procès, mais ils demandent aussi la tête du ministre Moro.
Oui, Lula a toujours dénoncé une machination politique et ses partisans sont convaincus de son innocence, que Bolsonaro est un usurpateur, qu'un fasciste comme lui n'a pu être élu que par la ruse et par le complot. Les démocrates américains sont dans la même forme de déni avec Donald Trump et persistent à croire que les manigances russes l'ont hissé au pouvoir. Le Brésil est polarisé, il est surtout dévasté par la criminalité et la corruption, et du coup l'opinion publique ne craint pas trop le gouvernement des juges. L'entourage de Bolsonaro fait d'ailleurs comme si toute l'affaire était une tempête dans une coupe de Caipirinha. C'est vrai qu'il y a d'autres menaces. La récession qui menace, justement, l'impuissance du gouvernement, faute de majorité parlementaire, et puis les réformes qui sont au point mort.
Merci pour votre analyse, Vincent Hervouette. C'était l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Marais dans la place.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité, ma chère Audrey, bonjour.
Eh bien écoutez, on sait qu'il a été champion de moto. Est-ce pour cela, depuis quelque temps, qu'il est dur à suivre dans ses prises de position? On verra ça. Christian Estrosi, maire de Nice, sera mon invité.
A tout de suite, avec plaisir.
Un bon réveil sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h18, Nikos Aliagas.
Le maire des Républicains de Nice, et le maire des Républicains, Christian Estrosi, est avec nous aujourd'hui. Merci de commencer cette interview.
Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est parce que vous avez été champion de moto, mais en ce moment, vous êtes dur à suivre. Un coup, vous soutenez Emmanuel Macron, un coup, François-Xavier Bellamy, puis de nouveau Emmanuel Macron. Pourquoi tous ces zigzags ?
Non, je n'ai pas changé de ligne du tout. J'ai créé la France audacieuse il y a 2 ans, très exactement. La France des territoires, la République des territoires.
Plutôt
avec
proche
aujourd'hui
d'Emmanuel Macron.
Des centaines de maires qui sont issus de la droite et du centre. Mmh. Je suis membre de la famille des Républicains, mais au nom de la droite et du centre, chacun a la France audacieuse, a la stricte liberté de pouvoir soutenir, combattre, faire des alliances, parce que la France des territoires, c'est la vraie vie. C'est celle des Françaises et des Français, d'hommes, de femmes et d'enfants, dont nous avons la charge et nous avons à lutter contre tous les sectarismes.
Mais en janvier, par exemple, Christian Estrosi, vous disiez ne pas partager du tout les positions de François-Xavier Bellamy. En mai, vous appeliez
finalement à voter pour lui.
Donc, que pensez-vous
et
vraiment ?
Alors, est-ce que ça change quoi que ce soit dans le fait que je reconnaisse dans les réformes du président de la République le fait qu'elles sont bonnes pour une grande part d'entre elles, qu'elles méritaient d'être soutenues et d'être accompagnées, et qu'une élection européenne fait que, comme à toutes les élections de toute ma vie politique, RPR, UMP et Républicain, j'ai été loyal avec ma famille politique, même dans les périodes de désaccord.
Donc, toujours Républicain. Christian Estrosi, en octobre 2017, vous étiez l'un des rares membres du bureau politique des Républicains à ne pas voter l'exclusion d'Édouard Philippe. Jusqu'où va votre soutien aujourd'hui à quelques heures de son discours de politique générale?
C'était absurde, il y a 2 ans, d'exclure un maire de droite des Républicains qui était appelé à devenir le Premier ministre de la France, parce que après l'échec au présidentiel où nous n'étions pas présents au deuxième tour, et sans tirer les conséquences de notre échec, adopter une position aussi sectaire était totalement incohérent pour moi.
Aujourd'hui, jusqu'où va votre soutien à Édouard Philippe à quelques heures de son discours ?
Mais ça n'est pas un problème de soutien. Aujourd'hui,
les grandes lignes, on les connaît, hein. Plus de pouvoir aux collectivités locales, l'assurance chômage, la retraite. L'âge pivot ne bouge pas à 62 ans, mais il faudrait aller jusqu'à 64 ans pour toucher sa pension à taux plein.
Je pense que vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, le cumul des mandats entre.
Vous n'êtes pas député, je
ne
vous demande pas de voter. Je ne demande pas de voter, mais je vous demande votre positionnement.
Je ne suis pas sénateur, ça nous est interdit. Voilà. Donc à partir du moment où ça nous est interdit, laissez-nous parler de la France des territoires.
Mais vous avez bien
et
un
si
avis sur
cette politique.
Si j'ai
à parler de la France des territoires, ce que j'attends cet après-midi en disant que sincèrement, alors qu'aujourd'hui, oui, il faut engager une grande réforme des retraites, oui, il faut une grande réforme de l'assurance chômage, bien évidemment, s'y opposer me paraîtrait absurde. Mais je mets une condition dans tout cela. Je veux que l'acte 2, de Macron-Philippe, ce soit un acte qui soit plus girondin que jacobin, où il y ait une grande loi de décentralisation.
Ce qui est promis.
Ce qui est promis, mais j'attends de voir le contenu. Est-ce qu'on va supprimer enfin un échelon qui est si coûteux pour le contribuable français et qui affaiblit la gestion des territoires ?
Vous avez peur que ce soit un girondisme de façade ?
Est-ce que dans le domaine des polices municipales, on va renforcer le pouvoir des maires et leur permettre d'accéder enfin à un certain nombre de fichiers ? Est-ce que dans le domaine des investissements, nous représentons 70% de la commande publique dans notre pays, on va enfin nous permettre de lutter contre tous les recours abusifs qui empêchent aujourd'hui 250 milliards d'euros d'investissement qui ramèneraient de la croissance, qui ramèneraient de l'emploi, qui ramèneraient du PIB dans notre pays.
Vous êtes sceptique,
ce
vous
sont
attendez de voir.
Toutes ces questions auxquelles on ne répond pas depuis 2 ans. Ça fait 7 mois qu'on ne réforme plus dans notre pays. Voter la confiance, c'est accompagner la relance de toutes ces réformes. Eh bien oui, il faudra voter la confiance. Si par contre, il n'y a pas des choses très précises avec un calendrier très précis, je comprendrai qu'un certain nombre de parlementaires émettent des doutes.
Christian Estrosi, à 9 mois des municipales, pensez-vous obtenir l'investiture des Républicains pour Nice ou Éric Ciotti est-il mieux placé que vous pour l'obtenir ?
Vous voulez que j'éclate de rire en direct à Europe 1 ?
C'est le cas,
très sincèrement, dans la situation où sont les Républicains, alors que nous ne détenons que 3 grandes communes sur les 10 premières communes de France, Bordeaux, Toulouse et Nice, ce sont des sujets qui se discutent devant les Français. Allez, je pense que ça n'est pas très sérieux.
C'est-à-dire ?
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous sommes à devoir reconstruire une droite et un centre dans notre pays. Vous pensez que la priorité des Français est de savoir si on va prononcer des investitures pour un tel ou un tel, mais une commune, ça ne se gère pas à coup d'investiture.
Vous n'avez pas besoin du logo Les Républicains sur votre affiche, c'est ce que vous me dites ?
C'est de la tambouille politicienne, tout ça. Ma relation, elle est avec les Niçois. C'est pas un état-major parisien qui va expliquer aux Niçois qu'on va les mettre sous tutelle. J'ai toujours eu la liberté de Jacques Chirac. J'ai toujours eu la liberté de Nicolas Sarkozy de pouvoir administrer ma commune avec qui je voulais, comme je voulais. Et c'est pas un état-major politique à Paris qui va m'expliquer le contraire.
Surtout en ce moment, parce que
surtout
ça va pas très
en
bien.
Ce moment.
Christian Estrosi, l'élection du président de votre parti des Républicains aura lieu en octobre. C'est une erreur, selon vous ?
Juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois ? On est en train de rentrer dans les 9 mois de l'élection municipale. Vous voulez contrarier tous les maires de notre formation politique, mais aussi tous nos administrés qui n'en peuvent plus de voir qu'on va encore avoir un débat sur un tel ou une telle pour savoir qui va le diriger. Je vais vous dire une chose. Je demande le report. C'est pas le calendrier.
Vous demandez le report de l'élection après les municipales.
Deux, en faire une priorité, bien sûr, après les élections municipales. Deux, en faire une priorité, alors qu'on n'a pas su tirer les conséquences de notre échec aux élections présidentielles il y a 2 ans. Alors qu'on n'a pas su tirer les conséquences de notre échec aux européennes. Et que la priorité pour moi serait de débattre de la ligne aujourd'hui. Est-ce qu'on va rester un parti sectaire ? Est-ce que tout de suite on décide de s'ouvrir, de faire en sorte que celui qui ne pense pas comme l'autre à l'intérieur de notre formation politique ne soit pas enfermé dans une sorte de tolérance zéro qui nous conduit à des 8% aux élections nationales ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a une autorité morale au-dessus de tout ce qui est une vraie légitimité dans notre mouvement. C'est Nicolas Sarkozy. Je considère que nous pourrions parfaitement faire appel à lui pour qu'il soit une sorte de juge de paix. Pas pour lui demander de présider, c'est pas sa vocation, mais d'être une sorte de juge de paix qui nous rassemble et qui nous fédère pour pouvoir traverser cette période d'élection locale dans, dans des conditions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines.
Christian Estrosi, on croyait que Christian Jacob serait l'unique candidat à la présidence des Républicains. Or, Éric Woerth et Guillaume Pelletier semblent tenter de se présenter eux aussi. Et vous ?
Je ne répondrai pas à cette question. Je vous ai dit il y a quelques instants que pour moi, il n'y avait pas à ouvrir un débat d'un tel ou d'une telle à l'intérieur des Républicains. Il y avait un problème de ligne politique. Je veux qu'on parle de ligne politique tout de suite.
Mais vous n'excluez pas de vous présenter à la tête du parti.
Je n'ai pas à évoquer ce sujet. Mmh. Je ne vais pas parler des autres pour parler de moi. Mmh. Moi, je suis un adhérent sympathisant, cotisant, parce que je suis un gaulliste qui est issu du RPR, de l'UMP et aujourd'hui des Républicains, tels que voulus par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Je veux qu'on retrouve ces fondamentaux. Et puis après, on parlera de qui sera le mieux placé pour administrer.
Une dernière question plus locale, Christian Estrosi. Est-ce que vous envisagez ou pas de vendre le stade à Nice ?
Je ne sais pas où vous sortez cela. Il n'en a jamais été question.
Dans l'équipe, journal L'Équipe.
Oui, bah écoutez, le journal L'Équipe est bien mal informé, mais c'est bien de prendre l'information auprès de moi. Nous n'avons pas l'intention, pas besoin. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement enviable sur l'état du patrimoine de notre ville. C'est un patrimoine qui appartient aux Niçois que je n'ai pas l'intention de céder.
Merci Christian Estrosi.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Marin.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info aussi. 8h30, la revue de presse avec David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. A tout de suite.
Belle matinée sur Europe 1, il est 8h27. L'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
On attendait l'été, mais ce sera pour plus tard.
Oui, mais il arrive quand même, hein, ça y est. On a déjà une petite idée. Enfin, hier, j'étais pessimiste en ce qui concerne la semaine prochaine. Là, maintenant, nous sommes beaucoup plus optimistes. Et à partir de lundi, il devrait faire beau et chaud sur la France, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Même si ça ne dure pas trop longtemps. Mais enfin, bon, ça ne durera pas trop longtemps, mais je pense que le véritable été, ce sera quand même au mois de juillet. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est le PPP, parapluie par précaution pour tout le monde, excepté si vous habitez la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen, où nous aurons du soleil tout le temps. Et dans le comté niçois, il fera cet après-midi, il fera quelque chose comme 17 degrés. Oui, 17 degrés. Même 20. Oui.
Parce que on va le dire au maire de Nice, il est encore là.
Ben je sais, justement, je viens d'en parler. Ouais. et donc voilà, il fera 15 degrés à Brest, 16 à La Rochelle, ouais, 17 à Caen, Bordeaux et Limoges, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 à Dijon, 20 à Strasbourg, 21 à Toulouse et 23 à Lyon.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 12 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
Le secteur privé a enregistré 92 800 créations nettes de postes au premier trimestre 2019, soit une hausse de 0,4%, chiffre de l'INSEE publié ce matin. Édouard Philippe prononce aujourd'hui la deuxième déclaration de politique générale du quinquennat Macron. Il doit préciser les contours de l'acte 2 esquissé fin avril par le chef de l'État au sortir de la crise des Gilets jaunes. Le Sénat, majorité de droite, est revenu hier sur l'allongement de 2 semaines des délais de l'IVG. La réalité, c'est que vous voulez faire reculer le droit à l'avortement, a dénoncé la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. L'anesthésiste de Besançon ira-t-il en prison ? La cour d'appel va examiner aujourd'hui le maintien en liberté du docteur Péchier. Il est mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels. 3 jours après le drame de Lorient, où 2 garçons ont été fauchés par une voiture, le chauffard et sa passagère restent introuvables. Un avis de recherche a été diffusé par la police. Fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe, peu après minuit et demi, 2 surveillants ont été retenus pendant plusieurs heures par un détenu. Il a finalement été placé en garde à vue.
Europe 1.
Mais il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Édouard Philippe, à la une des quotidiens ce matin. Jour J pour Édouard Philippe, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Écologie, impôts, retraite, ce qu'il veut faire. Pour Le Figaro, renforcer, Édouard Philippe veut relancer les réformes. Mais pour Les Échos, cet acte 2 ressemble à un champ de mine, tant les réformes à venir sont nombreuses et délicates, à commencer par celle des retraites, de l'assurance chômage ou de la PMA. Dans Les Échos, Cécile Cornudet décrit ce moment politique en évoquant la géographie sous-marine du pouvoir. Elle est stable à la surface, mais dans les profondeurs, les hommes et les femmes d'influence de la Macronie vont et viennent comme de gros poissons plus ou moins écoutés par le président qui leur accorde plus ou moins de poids. Qui aurait parié, écrit-elle il y a 2 ans, qu'Édouard Philippe resterait le chef incontestable de la majorité ? Voilà pour les profondeurs, mais si vous remontez à la surface, vous trouverez quoi ? Ben des bouteilles de plastique. En finir avec le plastique, demande la Croix. Plastique, la cote d'alerte qui alarme l'industrie, s'inquiète les Échos.
Car en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans.
Selon un rapport de la Fondation Hélène MacArthur, explique la Croix, ça veut dire qu'en allant à la pêche, vous attraperez plus facilement une bouteille d'Évian ou de Badoit qu'un maquereau. Si l'on en croit ces chiffres, en 2018, la production mondiale de plastique aura atteint 359 millions de tonnes, une hausse de 3%. À ce rythme-là, en 2050, l'humanité en aura produit plus de 12 milliards. Et cette invasion appelle une révolution du jetable, explique la Croix. En finir avec l'usage unique, conserver, réparer, consigner, recycler et peut-être faire le pari du miscanthus. Le miscanthus, c'est un roseau qui pourrait être la base de nos futurs emballages 100% biosourcés, 100% biodégradables. Et le sujet n'inquiète pas que les écolos ou le Premier ministre, dont on s'attend à ce qu'ils verdissent cet après-midi son discours de politique générale. À la une des Échos, ce sont les industriels qui sont inquiets face à la pression grandissante des ONG, mais également des consommateurs. Les McDo, L'Oréal, Danone, Coca-Cola, tous accros aux emballages, prennent des engagements, promettent de trier en attendant un projet de loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire attendu pour juillet. Et pourtant, tandis que les Échos et la Croix font la une sur les folies de la société de consommation, l'Opinion publie les bonnes feuilles du Wall Street Journal et un dossier sur la reconnaissance faciale au service de ce même consommateur.
Et puis, ce que votre visage révèle de votre compte en banque, vous pouvez le lire dans un quotidien américain.
Dans le Wall Street Journal, autrement dit, que révèle votre faciès du risque financier que vous représentez pour un banquier ou un assureur ? En clair, avez-vous une tête de mauvais payeur ? Les Chinois sont évidemment en pointe sur cette technologie qui permet à Ping An, la première compagnie d'assurance du pays, de vérifier la sincérité de ses clients en regardant leur visage. Filtrer les futurs bénéficiaires d'un prêt à la consommation ou d'une police d'assurance, saisir avec une caméra vos petites expressions, ces micro-signaux qui vous trahissent et qui peuvent révéler votre indice de masse corporelle, savoir si vous êtes fumeur, connaître vos émotions, interpréter un regard fuyant. On n'est plus du tout dans la société sécuritaire. On a basculé dans le détecteur de mensonges au service du business. Et puisqu'on parle de délit de faciès, on lira dans Le Monde l'interview du démographe Patrick Simon sur la question de la race. Oui, la race. Patrick Simon, c'est pas un dangereux nazi, c'est un chercheur plutôt humaniste. Et pourtant, que nous dit-il ? Pour lutter contre le racisme, il ne faut pas gommer la race. Même si le mot est connoté, même s'il est piégé, il a été remplacé par d'autres mots qui le sont tout autant. Nationalité, diversité, ethnicité, tous veulent éviter la couleur de peau ou l'origine. Et à force de ne pas vouloir voir, eh bien, ils charrient les mêmes relents racistes que le mot race. Une interview qui semble politiquement incorrecte a priori, mais qui est tout le contraire, c'est à lire dans Le Monde.
Et puis, du politiquement correct, il y en a aussi ce matin dans Charlie Hebdo, ou de l'impolitiquement correct.
Que je vous décris aussi froidement qu'une caméra chinoise, mais sans avoir peur des mots. Le dessin signé Biche montre donc un sexe de femme en une de Charlie Hebdo qui rappellerait l'origine du monde de Courbet. Et c'est un ballon de foot qui fait office de clitoris survitaminé. Coupe du monde de foot féminine, on va en bouffer pendant un mois, titre Charlie. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est la colère féministe, l'indignation puritaine ou la franche rigolade, comme si la caricature était aussi scandaleuse que le tableau de Courbet lorsqu'il fut exposé au public, quand ? Il y a 124 ans. Déjà. Alors à tous ceux qui effraient la vue d'un sexe de femme et d'un ballon, on conseillera tout simplement d'oser d'autres gazons. Osez donc la Coupe du Monde de football.
Merci mon cher David Abiker. À demain.
Et justement, Europe 1 est la radio officielle de la Coupe féminine, de la Coupe du Monde féminine de foot. Et on fait le point Nico sur la compétition avec Jérôme Lacroix.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Les titres.
Swipe up Nikos, je vous livre le secret du geste des Bleus quand elles célèbrent un but. Ce soir c'est France-Norvège. Opposition de taille, la Norvège joue ce paradoxe, leur meilleure joueuse ne dispute pas la Coupe du Monde. Et puis les Américaines, tout muscle dehors, victoire record 13-0.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1. Radio officielle.
Swipe up, c'est l'expression du jour. Ça veut dire balayer vers le haut. Ce geste qu'on réalise par exemple pour activer l'écran de nos téléphones portables, et bien ce geste, figurez-vous, est à l'origine de la célébration des joueuses françaises lorsqu'elles marquent un but, index pointé et mouvement des bras de bas en haut, inauguré vendredi dernier, match d'ouverture, et pourquoi pas le revoir ce soir à Nice face aux Norvégiennes. La capitaine Amandine Henry veut se délecter encore et encore de cette célébration venue d'une campagne de pub.
Avec un sponsor, avant la compétition, on avait fait une petite danse qui était sur la base du swipe up. Sur les téléphones, swipe up, c'est monté vers le haut et que c'était un peu symbolique parce que quand on faisait ça, on avait envie de dire en gros encore, encore, encore. Mais je pense qu'on peut encore la perfectionner.
Plus de 35 000 personnes attendues ce soir à Nice, tribune comble. Et bonne nouvelle, les précieuses Eugénie Le Sommer, l'attaquante, et Wendy Renard, la défenseuse, légèrement blessées ces derniers jours, elles devraient bien être présentes.
Et justement, à propos de Wendy Renard, les Norvégiennes la redoutent, hein, très particulièrement.
Buteuse au match d'ouverture, deux buts de la tête, bah oui, 1m87, c'est la joueuse la plus grande du tournoi. Alors pour la contrer, bah les Norvégiennes ont utilisé hier à l'entraînement leur attaché de presse, parce que c'est un gabarit d'1m96. C'est scandinave. Championne du monde 95 en déclin, depuis, elle dispute le mondial sans leur meilleure joueuse, tout juste sacrée première ballon d'or féminin de l'histoire. Ada Hegerberg, c'est son nom, boycotte la sélection depuis des mois. Elle réclame l'égalité footballeuse-footballeur dans son pays. Choix courageux, mais disons-le, pour les Bleus, c'est sans doute mieux sans elle. Méfiance tout de même, prévient la sélectionneuse Corinne Diacre.
L'équipe de France va jouer contre la Norvège, non pas contre Ada Hegerberg. Une équipe qui s'est qualifiée sans elle. Ada Hegerberg a fait son choix, mais c'est bien contre la Norvège que l'on va jouer.
France-Norvège ce soir à Nice, à vivre en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h.
Le premier carton de ce mondial, Made in USA.
Alex Morgan, on vous en parlait hier, la buteuse star des Américaines. 5 buts, 3 passes décisives hier soir. Les commentateurs en écarquillent les yeux. Succès final, 13-0 face aux Thaïlandaises. 13-0 du jamais vu en 8 éditions de Coupe du Monde féminine. On doit accepter le score, ont sobrement réagi les malheureuses Thaïlandaises.
Que dire d'autre? Aujourd'hui, outre France-Norvège, on va suivre Allemagne-Espagne.
18h, des Allemands deux fois championnes du monde face à des Espagnols en plein essor. Il y a peu à Madrid, 60 000 personnes ont assisté à un match de championnat. Record d'affluence pour le foot féminin de club.
Pronostic pour France-Norvège?
2-0 pour les Bleus.
Merci Jérôme Lacroix.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le festival de Pitrerie arrive. Nicolas Camplou, Julie est aussi en studio, dans le studio, donc tout le monde est là. Jean-Michel Apathy, Laurent Cabrol. Vous restez, Jérôme?
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Allez, c'est parti.
Jamais je rappelle.
Il arrive, Cantelou.
On reste sur Europe 1, il est 8h41. Il est 8h44.
Voici la star de la matinale, Nicolas Cantelou sur Europe 1, avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantelou. Et on démarre par le titre principal de l'actu, et vous Nikos?
Ouais. Salut à tous, pardonnez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Non, d'ouvrir mon micro. Bonjour à tous, salut les amis. Vous êtes vous, chers auditeurs, les stars de ces matinales. C'est véritablement vous les stars. Bienvenue sur Radio T-shirt. Oui, car oui, ce matin, si vous regardez sur Internet, j'ai un nouveau T-shirt. Et oui, un T-shirt, un jour, un T-shirt, après le T-shirt tête de mort hier. Aujourd'hui, le T-shirt de basket de mon village de 12 habitants.
C'est vrai.
Missolonghi en Grèce, voilà.
Ah, c'est ça ce que ça veut
dire. On est très sport européen. Europe 1, je rappelle, qui est quand même radio officielle de Roland-Garros. Europe 1 qui est radio officielle de la Coupe du Monde de foot féminin. Europe 1 qui est radio officielle de mes t-shirts à la con. Voilà, nous sommes en radio officielle en fait de tout, un petit peu la foirefouille de la radio officielle. Mais je vais revenir à une info plus sérieuse, l'info surround, c'est la prise d'otage dans la prison de Condé-sur-Sarthe qui est terminée, qui s'est bien terminée. Je rappelle qu'on est quand même radio officielle du réfectoire de la prison de Condé-sur-Sarthe. Donc le preneur d'otage va donc passer de la prison à
à la garde à vue, puis à la... Et puis à la prison, voilà. Donc ça change tout son parcours de vie, en fait. Bravo à lui, à vous, Julie.
Bien vu, Nikos, bien merci, vu. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui mercredi qu'Edouard Philippe va nous livrer son discours de politique générale. Bonjour Edouard Philippe.
Oui.
Est-ce que vous pouvez...
Jean-Aime Leclerc, bonjour. Votre...
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce discours, hein, qui n'est pas le premier d'ailleurs.
Écoutez, Mme Leclerc, vous êtes gentille. Ne faites pas semblant de vous intéresser à mon discours de politique générale. Je me rends bien compte que tout le monde se contrefout de mon discours de politique générale.
Déjà
en cours d'année, je me rends bien compte qu'on se fiche pas mal de ce que je dis. Mais là, parler de politique générale, vous savez, je suis lucide. Parler de politique générale un 12 juin, je me rends bien compte que je ne suis pas dans le bon timing.
Mais si, enfin, ça nous intéresse.
Écoutez, madame Julien, vous êtes très aimable avec moi, mais même monsieur Apathy a préféré parler du trou de la sécu que de parler de moi. Franchement, monsieur Apathy, écoutez, je vous ai chronométré pendant votre chronique, vous avez parlé de moi 4 secondes 38 centièmes, donc ça reste assez court, donc vous êtes très gentil, mais un 12 juin, je suis lucide, les Français se demandent se posent d'autres questions. Quel est, par exemple, le meilleur rosé, quel est le...
Ça,
c'est pas faux, hein. Il a raison, Edouard Philippe, pour une fois, je suis d'accord avec lui.
Oui, même monsieur Cabrol confirme, les Français se demandent où acheter peut-être les meilleurs merguez en ce moment, mais la politique générale du gouvernement, je pense que tout le monde s'en cogne, il faut être lucide.
Mais non, allons.
C'est pas vrai, bonjour Nicolas Barrette, directeur des Écrans. Moi j'attends que ça, vos déclarations, monsieur le Premier ministre, sur la maximisation de l'économie circulaire en Europe grâce aux enseignements de la Fondation Hélène MacArthur. J'attends aussi, bien sûr, vos propositions sur la fondation de la Deutsche Bank spécialisée dans l'économie environnementale. Et...
Ah, oui. Bah, vous voyez.
C'est bien ce que je dis, tous les gens qui ont une vie s'en foutent.
Julie, est-ce que je peux récupérer le cache en plastique, la protection en plexiglas qui entoure la Coupe du Monde de foot qui est dans votre studio?
Ah bon, ce cylindre transparent là
Oui, parce que je dois changer ma cabine de douche et c'est pile la bonne taille.
Écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais demander à la fédération. Allez, ça, merci Nicolas Barré. Guillaume Pelletier, Christian Jacob, qui va diriger les Républicains? On entend passer beaucoup de noms en ce moment, hein, même celui d'Éric Woerth.
Oui, bonjour à vous, madame Julie. Bonjour à vous, monsieur Aliagas, monsieur Apathy. Je n'oublierai pas monsieur Lacroix, ni messieurs Cabrol et Abiker, sans oublier, bien sûr, madame, d'Acosta.
Manuel Valls. Bonjour, alors vous teniez à intervenir ce matin, pourquoi?
Oui, car je me faisais cette réflexion en écoutant votre matinale quand même. On paye trop d'impôts dans ce pays. Il y en a assez, je le dis haut et fort, de l'assistanat. Il faut, je le crois, libéraliser l'économie rapidement, tout en respectant bien sûr les valeurs chrétiennes de notre pays. Car finalement, un enfant doit avoir, je le crois, et c'est inscrit dans la nature, doit avoir un papa et une maman.
Mais Manuel Valls, vous n'êtes pas en train de tenir des propos de droite pour diriger les Républicains quand même, non? C'est pas ça.
Écoutez, madame Julie, en 2 ans, j'ai bien eu 3 partis. Le Parti Socialiste, vous l'avez noté, La République En Marche et plus récemment le Parti Ciudadanos de Barcelone. Alors pourquoi pas 4? Ne dit-on jamais 304?
Mais non, mais parce que vous n'êtes pas de droite, tout simplement.
Mais est-ce que vous avez vu ma politique sous François Hollande? À quel moment ai-je été de gauche, hein? Donc je vais bien trouver, je vous le dis, un parti qui veut de moi. D'ailleurs, vous-même, sur Europe 1, peut-être avez-vous... un créneau pour moi, pour l'année prochaine. Vous savez, j'ai des compétences multiples, je suis polyvalent. Regardez, je peux le faire. Oui, il est 7h du matin. Tout de suite, le journal d'Hélène Zélani. Oui. Pas mal, non?
Très bien. Non. Très bien. On va vous donner des cours, hein, avec Céline. Oui, merci, monsieur Valls. Laurent Wauquiez l'a annoncé dorénavant, sa seule priorité est la région Auvergne. Bonjour, Laurent Wauquiez.
Oui. Bonjour madame Julie. Vous l'avez rappelé, ma seule priorité aujourd'hui, et je vous le dis, droit dans les yeux, c'est la région Auvergne. La région de mon cœur, celle que j'aime tant, celle qui a toujours été là pour moi, surtout quand je suis au chômage.
Oh putain, mais t'es encore là toi?
Bonjour Nicolas.
C'est ça ton retrait? 48 heures et t'es déjà de retour?
Oui, mais je suis de retour où, cher Nicolas? Dans la région Auvergne, ma seule priorité. C'est la région Auvergne, la région de mon cœur, celle que j'aime tant, celle qui est toujours là pour moi, surtout quand je suis au chômage.
Mais t'es sûr? Tu jures que c'est l'Auvergne et que c'est tout? On te reverra pas.
Je le jure, Nicolas, ma région, Ma seule région, ma seule priorité, c'est la région Auvergne, la région de mon cœur.
Bon, on est bien d'accord, tu seras donc jamais président de la République, Laurent. Tu n'essaieras plus jamais.
Bah si, être président de la République, je le serai, puisque c'est mon destin.
Oh putain, il recommence.
Calme. Lolo, regarde-moi dans les yeux. Tu peux pas dire que l'Auvergne est ta seule priorité, que tu veux être président de la République. Si, car je vais demander l'indépendance de la région Auvergne. La région Auvergne deviendra donc la République démocratique d'Auvergne, et je serai président de la République d'Auvergne. Et je déclarerai la guerre à la région Île-de-France de Valérie Trétresse, mon ennemi juré.
Oh putain. Corinne Boulot, Jérôme Lacroix, chacun porte sa croix. Puis moi de raquette, je vais le taper.
Ah non, allez, calmez-vous. Merci, monsieur Sarkozy. Le ras-le-bol dans les services d'urgence s'installe. Les professionnels dénoncent une situation explosive. Certains soignants posent des arrêts de travail, mais la plupart du temps, ils portent juste un brassard personnel en grève pour assurer la continuité des soins. Bonjour, monsieur Régis.
Alors, oui, vous êtes... laissez-moi le temps de vous dire bonjour. Bonjour, j'ai même pas le temps de vous répondre.
Bonjour.
Ah, la vedette.
Vous êtes notre représentant SNCF. Vous pensez quoi de ce genre de grève, vous ?
Ben que c'est pas professionnel. C'est même un comportement indigne d'un gréviste. Je suis désolé de vous le dire, messieurs du personnel hospitalier, mais un gréviste qui bosse, c'est inacceptable. C'est comme un végétarien qui mange un steak. C'est pas professionnel. Il y a des règles en matière de grève. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles. Voilà, faut respecter les règles.
Et comment vous feriez ?
Il y a des règles.
Ouais, il y a des règles, on a bien compris. Mais comment vous feriez ?
Il y a des règles. Faut pas le dire avec ironie. Il y a des règles, faut respecter les règles.
D'accord, mais comment vous feriez pour
des
dire
règles.
Non ?
Par exemple, la pub, elle doit partir à 9h sur Europe 1. Pas à 9h02, sinon on perd 25%.
Exactement.
Donc il y a des règles à respecter, faut pas déborder.
Mais comment vous feriez-vous pour dire non si vous étiez urgentiste et qu'un malade se présentait à vous en détresse cardiaque, par exemple ?
Il n'y a qu'un seul mot, la volonté. Oh. Vous savez ce que je lui dirais ?
Non.
Ben, je lui dirais ça. En raison d'un mouvement de grève d'une certaine catégorie du personnel, votre crise cardiaque ne pourra malheureusement pas être traitée avant 72 heures. Nous vous conseillons de revenir dans le courant de semaine prochaine. Voilà, non, monsieur, n'insistez pas! Soyez pas égoïste, monsieur. C'est pour votre bien qu'on fait grève. Ah, les gens sont d'un égoïsme. Il y a des règles. Oui. Faut respecter les règles.
D'accord. Merci, monsieur Régis. Allez, on termine avec le football. La France a donc battu l'Andorre hier soir, 4-0. Didier Deschamps, un petit commentaire peut-être ?
Oui, écoutez, tout d'abord, bonjour. Hein, parce bonjour. Que je pense que c'est le minimum en termes de politesse.
Bonjour,
Didier. Bon, mais l'Andorre, super. Bravo l'équipe de France. Hein, vous avez battu l'Andorre. Bon, pardon, mais enfin, c'est quand même l'équivalent en qualité de jeu de l'équipe de basket de Nikos Mitsotakis. Hein. On a joué hier soir sur une vieille moquette verte toute râpeuse. Bon. Puis l'Andorre, c'est quand même... Oui, l'Andorre, je rappelle que c'est le nom du pays, hein, mais c'est aussi le sentiment qu'on avait quand on regardait le match. C'est vrai, quand on regarde l'équipe de France en ce moment, bon, ben, on s'endort.
Alors, on se souvient de l'entraînante chanson de VG Dream, Ramener la coupe à la maison, la coupe du monde, qui est d'ailleurs...
Dans ce studio.
Elle est en ce studio, la coupe du monde.
Elle est là. Elle est là. Vous pouvez la voir sur Europa.fr. Bah,
ouais. Alors, le
oui,
chanteur...
vous êtes partenaire de la Coupe du Monde.
Mais voilà. Alors, le chanteur a expliqué qu'il ne chanterait pas pour les femmes. Hein. C'est un petit peu dommage quand même, ça.
Oui, effectivement, c'est sa décision. Il ne veut pas chanter pour les femmes. Bon, il faut la respecter, mais en même temps... Attendez, pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ? Attendez, il y a Jérôme Rotten qui me parle. Jérôme Rotten, tu sais, le philosophe footballeur qui a dérapé sur la misogynie. Là.
Oui,
qu'est-ce
oui,
qu'il y a,
oui,
Jérôme
oui, oui, oui.
Qui pourrait chanter pour les femmes, ramener la coupe à la maison. Ah, ramener les courses à la maison, allez. Oui, t'as raison, ça rime. Bon, ben, vous voyez, Julie, il n'est pas encore guéri de sa misogynie aiguë. Hein.
Nicolas Canteloup, tous les jours sur Europe 1, avec Julie. Wendy Bouchard, à partir de 9h, le tour de la question. Deux thèmes aujourd'hui.
Absolument. Bonjour, Nico.
Bonjour, Wendy.
Bonjour à tous. Après cet accident mortel à Paris, accident lié à l'utilisation d'une trottinette pour son utilisateur, faut-il s'inquiéter de leur prolifération dans les grandes villes de France ? Nice, pour l'instant, ne autorise pas leur utilisation précisément. Nantes les a interdits. Quid de Paris ? Qui utilise aujourd'hui ces trottinettes et comment expliquer cette anarchie dans un certain nombre de grandes villes ? Puis à partir de 10h, Paris Match fête ses 70 ans. Avec nous, grand plateau. Vous avez inauguré l'histoire et le sujet avec Olivier Royan aujourd'hui. Alors nous aurons une kyrielle d'invités pour parler des plus grandes personnalités Paris Match, des grandes couvertures et l'explication, la recette également de la longévité de ce magazine connu dans le monde entier.
Merci ma chère Wendy Bouchard. À tout à l'heure à partir de 9h.
On attend vos appels au 39-21 à suivre la météo et l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Ensuite, la météo avec Laurent Cabranicos.
Allez, un petit rappel juste pour vous dire que le parapluie est presque indispensable pour tout le monde. Sauf la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen, nous aurons du soleil. Sauf l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais, la région lyonnaise, où ce sera plutôt lumineux, surtout cet après-midi. Et puis, partout ailleurs, ma foi, à un moment ou l'autre de la journée, look, on ouvre le parapluie. Les températures maximales, 15 à Brest, c'est frais. 16 à La Rochelle, 17 à Caen, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 à Strasbourg, 21 à Toulouse, 23 à Lyon et même 26 à Bastia, qui est la ville la plus gâtée en ce moment.
Merci beaucoup Laurent Cabral.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, à la une de l'actualité, le grand oral d'Edouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée. Après les européennes et les promesses du grand débat, le Premier ministre va prononcer son discours de politique générale. Il doit lancer l'acte 2 de son quinquennat, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors quels sont les projets ? Quelles sont les réformes ? Et qu'en attendent les députés ? Écoutez, c'était dans le journal de 7h.
Les textes évidemment sur la retraite, sur la dépendance, les textes bioéthiques, c'est important pour la majorité d'avoir un cadre qui soit maintenant clarifié et précis.
Évidemment, de mettre la question écologique au premier rang des priorités, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des politiques publiques cohérentes, des annonces, et puis aussi l'accompagnement de tous ceux qui peuvent avoir du mal dans la période.
Ça va être aussi intéressant de voir quels vont être les votes pour la confiance de ce discours de politique générale.
À 7h20, on vous emmène en Guyane pour un Europe 1 va plus loin exceptionnel consacré à la montagne d'or. Vous savez, c'est le projet de mine géante à ciel ouvert. Eh bien, ce projet sera-t-il enterré ? Le gouvernement le promet, mais des élus locaux font pression au nom d'autres intérêts économiques et lobbying de la région, comme Rodolphe Alexandre, le président de la communauté territoriale de Guyane. On l'écoute.
Que cela plaise ou que cela plaise pas, il y avait un projet sur près de 700 emplois directs, 1400 emplois en indirect.
Dans un secteur où le taux de chômage
dans à plus de 23%. Alors, c'est un besoin essentiel. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. J'ai défendu Montagne d'Or, comme je pourrais défendre d'autres projets qui vont certainement sortir. On a écouté Monsieur le ministre, puisque j'étais à Paris, il nous a reçus pendant plus d'une heure. Je pense que le dossier minier n'est pas fermé.
Enquête signée Théo Manval, à retrouver en intégralité sur Europe 1. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. À demain.
Wendy Bouchard,
c'est à vous.
Nous sommes là avec vos appels au 39-21 demain. Salut.
Au revoir, Julie.